Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la toute première boîte à thé, un nouveau concept qui consiste à discuter des interactions entre principalement les sous-genres de l'imaginaire, mais pas seulement, et le JDR. Donc on va principalement discuter de la manière dont on peut émuler un sous-genre ou un genre, des grandes thématiques et comment elles peuvent être abordées en JDR. Ce soir, on parlera de cyberpunk et je remercie tous les participants et participantes ainsi que les potentiels futurs spectateurs et spectatrices. Donc le cyberpunk c'est défini comme un genre de la science-fiction qui dans un futur relativement proche en général traite de l'impact de la technologie sur l'humanité. On peut considérer que c'est au croisement de la dystopie, de la hard SF, de la SF sociale, ce qui est paradoxal avec la RDSF, je reconnais, et du roman noir. Il y a trois questions à se poser si on veut classer une œuvre dans le cyberpunk ou pas. Est-ce une œuvre d'anticipation? Quel est le rapport entre la machine et l'humain? Comment la technologie ou la science change-t-elle la vie de celui-ci? En général, l'action se place plutôt en marge de la société décrite, ou au moins à un niveau, on va dire, street level. Voilà. On pensera tous au Street Kid dans Cyberpunk 2077. Sinon, autrement, en général, donc on est dans de la dystopie, il y a un avenir numérique et cybernétique, il y a des laissés pour compte qui tentent de s'y adapter. C'est généralement une anticipation, c'est généralement limité au système solaire, mais pas systématiquement. Évidemment, l'articulation vient du mot cyber, cybernétique, et du punk. On va quand même définir pourquoi le mot punk est employé. C'est évidemment une référence au mouvement essentiellement musical, mais pas que, des années 70. Dans le cyberpunk, on le voit à travers un aspect nihiliste, un contexte dystopique où l'humain est broyé, déshumanisé par l'émergence brutale du technologie, ainsi que par la prise de pouvoir de multinationales qu'on a renommées corporations ou même méga-corporations. Le protagoniste est généralement un anti-héros, un être marginal, voire un anarchiste, un hacker. On est souvent dans une ambiance noire qui dérive des polars. Pour un rapide historique, on va dire qu'un des grands précurseurs, c'est Philip K. Dick, même s'il y en a eu d'autres. D'ailleurs, Philip K. Dick a été adapté, sa nouvelle a été adaptée pour faire un des premiers vrais films cyberpunk reconnus, en tout cas dans l'histoire. Le cyberpunk est un compagnon du développement de l'informatique, principalement, puisque dans les années 80. Le terme apparaît en 1981 dans une nouvelle de Bruce Befke, et popularisé ensuite par Gardner Dozoa dans son magazine. Les deux gros jalons, c'est quand même Blade Runner en 1982 de Ridley Scott et Neuromancien deux années plus tard en 1984 par William Gibson. Pour l'anecdote, William Gibson, en ayant vu Blade Runner, a dit en gros on m'a piqué toutes mes idées, quoi. Voilà. Ou même quelque chose du genre. Je vais faire un rapide aparté sur le post-cyberpunk. À un moment donné, le progrès technologique rend le cyberpunk obsolète. Le mouvement ne dure qu'une décennie à peu près. Et devient rapidement une esthétique qui est digérée puis recrachée par la culture populaire, perdant peu à peu son sens contestataire d'origine. Puis, à la fin de ce mouvement, qui est quand même très très limité dans le temps, qui a quand même influencé toute la société, enfin toute la science-fiction et toute la culture pop, ne serait-ce qu'en termes d'esthétique, on a vu dans les années 1991, avec le samouraï virtuel de Neil Stephenson, apparaître le post-cyberpunk. La thématique, les rapports à la technologie est plus ou moins gardé, mais c'est surtout une différence de ton. On ne fait plus forcément dans le roman noir. L'anti-héros marginal avec une attitude nihiliste disparaît au profit de quelqu'un soit intégré dans la société, soit décidé à faire bouger les choses en mieux. Il y a aussi, avec le progrès technologique, la disparition des implants électroniques pour passer sur de la nanotech, on appelle ça du nanopunk, ou de la biologie. On appelle ça du biopunk. D'où je parle, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout du cyberpunk. J'ai lu quelques ouvrages très rapidement, généralistes et théoriques sur le sujet. Et en termes de jeux de rôle, j'ai joué à Eclipse Phase, Cyberpunk, Shadowrun, CBRPNK, The Sprawl, et c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait une partie de Cyborg aussi. Donc voilà mon expérience personnelle. On va aborder plusieurs thématiques, je ne sais pas si c'est nécessaire que je dise le sommaire, mais on va aborder plusieurs séquences que j'ai découpées un peu arbitrairement. Hein, voilà. Jouer des low-life, jouer des punks, les méga-corpos, les runs, le problème matriciel, l'esthétique noire, les questionnements sur l'identité, les augmentations. On va donc commencer par jouer des low-life, des punks. J'ai un peu le sentiment que, pour ma part, je l'ai rarement retrouvé, cet aspect low-life, marginal, punk, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux cyberpunk où on évalue, en fait, où on a un sentiment en fait, d'héroïsme, parce qu'on se retrouve très vite par la mécanique de l'XP et des augmentations très très puissantes, selon la progression de l'XP. Donc, mes deux premières questions, c'est qu'effectivement, comment on gère la progression XP pour garder cette impression de low life ? Comment on gère la progression XP ? Voilà. Donc, il y a la notion aussi de PJ cyberpunk en nuance de gris. Ça peut susciter des problèmes de morale ou d'éthique de jouer des personnages qui sont souvent des mercenaires ou des anti-héros. Est-ce que c'est intéressant de jouer, entre guillemets, gros guillemets, des losers ? Et un autre problème que j'ai souvent constaté, c'est qu'à part dans des jeux plus récents, plus narratifs, dans Cyberpunk et dans Shadowrun, on est facilement face à une fiche où il y a 60 compétences. Pour moi, ce sont des soucis que je vois, en tout cas pour ma part personnellement de game design. Je passe la parole à Uz.
Pour ce qui est de jouer des punks, jouer low life dans les jeux de rôle cyberpunk, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours ce sentiment-là. Moi, je trouve que dans cyberpunk, alors ça dépend peut-être des versions, mais je trouve déjà que dans cyberpunk, on a un petit peu du mal à identifier exactement ce qu'on va jouer, parce qu'on a, moi, l'impression que ça me donne, c'est que au début, on peut être un corpo ou un runner ou un espèce de ganger punk ou quelqu'un qui est dans les médias. Enfin, la proposition de jeu est pas forcément très très claire. L'autre jeu que j'ai pratiqué le plus, Shadowrun, là on a une proposition plus claire, mais on est plutôt du côté du mercenaire. Et pour moi, le mercenaire, c'est pas forcément non plus la frange la plus punk et la plus low life qui existe. On est vraiment sur un cas particulier encore. Moi, l'impression que j'ai eu le plus vraiment de jouer low life, ça a été avec un jeu qui est encore en test, qui s'appelle pour l'instant Cœur Synthétique, Valentin T. Et qui est pour l'instant seulement en processus de test, mais il y avait pas mal de trucs intéressants, en particulier le fait qu'on commençait vraiment avec que dalle, quoi, aucun implant, presque pas de matos, et que principalement pour s'équiper, bah en fait on s'endettait, quoi. Donc très très vite effectivement il pouvait y avoir une progression de personnage, mais à chaque fois une problématique de plein de pognon à rendre à quelqu'un, de toujours être dans des dettes, etc. Donc on a vraiment l'impression que le personnage était toujours sur le fil, point de vue là. Donc là, c'est un des rares jeux où j'ai vraiment eu cette impression là, quoi. Je peux laisser la parole à Inigine.
Merci. Alors, d'abord, je dois commencer par une brève introduction sur le d'où je me place. Narcy en a parlé un peu. Je suis un peu dans le même cas de figure que lui, c'est-à-dire que ma dernière partie d'un jeu qui ressemble à du cyberpunk remonte à au moins 15 ans. Par contre, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de récits de parties de Shadowrun. Et je suis dans une situation un peu originale, puisque je dois préparer une partie cyberpunk pour l'édition Orchidée d'avril 2024, donc la prochaine, où évidemment, ça sera du cyberpunk dans Rokugan 2000. Donc j'ai des problèmes un peu spécifiques. En termes de héros low life, moi ce qui m'a toujours gêné, c'est que le concept d'implant ou les armes technologiques qui étaient mises en œuvre impliquaient qu'on ait des PJ qui soient finalement relativement riches, et donc il y a un manque de cohérence entre le fait qu'ils soient low level et le fait que les particularités de leur mode de vie, en fait. Et donc ça m'inspire la réflexion que le fait d'avoir des aventuriers low level ou street level, d'abord implique un type d'intrigue, c'est-à-dire que c'est des jeux à mission, c'est des missions de mercenariat, que en fait ce qu'on joue, c'est les équivalents médiévaux, enfin les équivalents cyberpunk des héros médiévaux que sont les mercenaires ou les aventuriers de donjons, mais que en fait le type de personnage vient d'une contrainte méta qui est, en fait, on joue des aventuriers, mais dans ce monde-là, à quoi ressemblent les aventuriers ? On va dire que c'est des mecs low level qui cherchent de la thune, et au lieu d'explorer des donjons, ils vont lutter contre des méga corpos. On peut éventuellement imaginer que les méga corpos, les immeubles immenses, stratosphériques des méga corpos, sont les équivalents inversés des donjons qui plongent dans les sous-sols. Par contre, ça a une cohérence profonde interne à l'univers, et que, évidemment, le fait de jouer pas du low level accroît l'effet d'écrasement et l'effet de mise en scène des inégalités qui sont omniprésentes et qui sont dominantes, qui sont archétypales, on va dire, de ce type d'univers. Et j'ai fini.
Juste faire un insert rapide avant de passer la parole à Sgardota. Merci Inigine pour ton intervention et merci à Eus également. Pour, concernant le côté il faut être riche pour avoir des augmentations, c'est vrai que c'est un problème, on y reviendra plus tard dans la partie les augmentations. Effectivement, les augmentations coûtent très cher et ça engendre un côté mercenaire qu'on abordera également dans la partie les runs, un côté mercenariat, un côté intrigue à mission. Il y a quand même des personnages cyberpunk qui, à la base, normalement, en tout cas dans l'univers, mais ça doit exister en jeu de rôle également, hein, c'est sûr. Voilà, il y a des archétypes qui sont préparés comme ça. Il y a quand même l'archétype du détective à l'ancienne, donc du gars qui n'a pas d'augmentation ou très peu et qui a juste un gros flingue et des contacts. Il y a quand même aussi, des cas, d'espèces d'infiltrateurs ou de gangers, notamment dans Shadowrun. Dans Shadowrun, on peut jouer un ancien ganger qui n'est certes plus ganger, mais qui est devenu runner. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent garder un côté un peu... Life punk. Je passe la parole à Asgard.
Oui, moi, alors d'où je viens pour parler cyberpunk, bah de très très peu en réalité, parce que ma connaissance sur le genre est plutôt assez générique et se limite globalement à The Edge Runner sur Netflix et à quelques quand même vidéos et autres sources d'informations sur la question, mais je ne suis pas un grand expert, loin de là, et je ne suis même pas sûr d'avoir fait une partie cyberpunk, à l'exception d'un one-shot il y a quelques mois avec l'ami Angel qui traîne dans le secteur aussi. Mais moi, ce qui me pose problème dans cette première question, c'est l'aspect low-life punk. Alors, ma connaissance sur le mouvement punk est à peine plus développée que ma connaissance sur le mouvement cyberpunk. Cela étant, pour moi, le punk, c'est avant tout un modèle contestataire et une volonté de s'extraire du mouvement principal. Pas de futur, pas d'espoir, et puis une certaine forme de « on doit détruire le système ». Et dans tous les cyberpunk que je vois, en fait, j'ai pas l'impression que les personnages soient des punks. Enfin, je veux dire, en soi, c'est pour transposer ça, évidemment, ce sera discutable, mais dans notre monde actuel, j'aurais tendance à dire qu'un runner, c'est un punk, mais qui, en fait, va aller faire une mission pour, je sais pas, McDo. À tout hasard, voilà. Il va aller faire un job d'intérim d'un mois pour McDo. Mais ensuite, bon, il va venir cracher sur McDo, hein, mais ensuite, il va quand même retourner le mois suivant aller bosser pour Ikea ou pour Dassault Aviation. J'ai du mal à imaginer, enfin, j'ai du mal à vraiment considérer qu'on est sur un, comment ça s'appelle, sur un vrai mouvement punk. Low level, oui, low life, ça, j'ai pas de souci. Moi, le côté punk du cyberpunk me sort pas en général par les runners. J'ai beaucoup plus d'imagination pour le coup jouer vraiment des punks dans des variations alternatives de The Sprawl, par exemple, où on va pouvoir aller jouer des artistes de rue, on va pouvoir aller jouer des circassiens, on va pouvoir aller jouer un groupe de musique métal punk, pour le coup, qui va vraiment essayer de sauver son quartier contre les corpos. Là, je verrais plus le côté punk, mais le runner classique en mode « Y'a Monsieur Johnson, il te donne une mission, tu extrais tel cadre de la corpo et ensuite tu viens le vendre », ouais, j'appelle ça un mercenaire, j'appelle pas ça un punk, quoi. Et je passe la parole à Poirot.
Alors, je dois dire que mon intervention va pas mal rejoindre celle d'Asgard. Effectivement, alors pour le coup... Tant pas être un spécialiste du mouvement punk, mais on va dire que c'est un mouvement que je fréquente pas mal. Il y a toute une logique justement dans le mouvement punk, dans anti-système, dans le sens de trouver des moyens d'exister hors du système. Ça se passe par le squat, les moyens d'échange alternatifs. Leur réutilisation, tout ça, c'est ça qui manque dans le côté punk des cyberpunk. C'est jouer des gars qui cherchent à exister dans un système, hors du système, tout en l'utilisant, quoi. C'est-à-dire, c'est ça le. Comme je disais, je me rappelle avoir vu une discussion d'un gars qui parlait du jeu cyberpunk. Qui est sorti, qui disait Cyberpunk, le jeu qui s'appelle Cyberpunk où les flics te donnent des missions, quoi. Qu'est-ce qu'il y a moins de plus horriblement cyberpunk que de travailler pour les flics, quoi. Moi, je me rappelle avoir discuté avec avec des anarchistes qui utilisaient comme insulte pour parler des gens, c'est un flic. Pour dire du mal d'une personne, ils disent c'était un flic, quoi. Donc, c'est l'antithèse. Alors voilà, quoi, le punk, c'est avant tout un mouvement qui va vers l'anarchisme, quoi. Donc, tu dois travailler vers détruire, enfin, trouver. En fait, plus que détruire, c'est trouver tes propres moyens de trouver une faire fonctionner le monde dans ta communauté, quoi. C'est ça qui manque vraiment dans un jeu pour qu'il soit un jeu punk, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce serait un jeu où tu, pour le coup, pour moi, Spire est beaucoup plus punk et de manière beaucoup plus assumée que beaucoup de jeux cyberpunk, quoi. Un jeu où tu crées ton groupe, tu l'organises dans un plus ou moins librement dans une organisation plus large que où t'as moins de liens qui te rattachent. Et là, tu vas essayer justement de libérer, de faire tomber un ordre établi. On est vachement plus dans la rhétorique et dans la pensée punk que dans 90% des jeux cyberpunk où effectivement tu joues des sales mercos un peu bas du front qui sont là pour aller faire le sale boulot des corpos dans l'ombre, quoi. Donc pour moi, effectivement, ne pas considérer si tu bosses pour McDo, tu fais même, c'est pire que ça. C'est tu vas vider les poubelles du McDo en scrud pour pas que les qui soient épinglés par les services de l'hygiène, quoi. Donc en gros, c'est vrai que le run de base, c'est l'antithèse du cyberpunk, de l'idée punk, à mon avis. Je pense que j'ai assez déblatéré, donc je peux passer la parole à la prochaine personne intéressée.
Je la prends, du coup. Je pense qu'après, il faut voir une définition du punk, parce que le punk, ça vient du rock punk des années 80, quoi. Mais j'ai l'impression que dans ce qui est littérature et ce qui est, on va utiliser ces termes-là, dans ce qui est... tout ce qui est imaginaire, donc tout ce qui est culture de l'imaginaire, le punk a pris une autre fonction que obligatoirement des nihilistes qui font de la musique dans des caves. Je pense que, par exemple, dans tout ce qui est cyberpunk, que ce soit les mangas, les BD, les comics, les films et compagnie, on est souvent dans des sortes de dystopies, comme l'a dit Narcy au début. Et c'est souvent on va souvent jouer des pauvres types, quoi, des types de tout en bas qui essayent de s'en sortir, hein, comme l'a dit Uz, comme ils peuvent. Et alors effectivement, le but, c'est pas de changer obligatoirement la société et compagnie, mais il n'empêche, c'est de faire des crasses, c'est de vivre dans des caves, c'est d'essayer de s'en sortir comme on peut. Si on est des runners qui bossons pour les corpos, c'est au final pour s'en sortir parce qu'on n'a pas de moyens de subsistance autre, j'ai envie de dire. C'est pas pour une vision de richesse et de devenir riche et de devenir les corpos à la place des corpos, quoi. Et souvent, En plus, souvent, il y a des concepts politiques qui rentrent en compte où justement les corpos, au départ, tu vas essayer de pirater une corpo pour une autre corpo, mais tu t'aperçois que c'est un complot et vice versa. Et en fait, à la fin, tu essayes de tout faire tomber et tu perds parce que tu es un loser. Voilà. Et les corpos gagnent toujours. Moi, si c'est pour la définition plutôt élargie du punk, ça ne me choque pas qu'on dise du cyberpunk, quoi. Maintenant, pour ce qui est le low level, je pense que c'est quand même le moyen le plus intéressant, à mon avis, de jouer du cyberpunk. Je vais parler de mes expériences. Moi, j'ai fait une campagne d'Oshimin, donc c'est un jeu de Thomas Munier, où on joue vraiment dans les bas-fonds de cette ville un peu étrange et très bio-cyberpunk, je dirais presque. Et moi, je joue un robot. Un ancien robot. Et souvent, on a... D'ailleurs, dans, dans, dans les références, souvent, il y a des sortes de... Comment je pourrais dire ? De combattants, on va dire, un peu communistes, un peu anarchistes, qui se retrouvent au milieu des histoires. Et souvent, voilà, on est plutôt de ce côté-là que obligatoirement toujours au niveau des corpos. Et je laisse la place à Virginie.
Bonsoir. Moi, je voulais quand même souligner qu'il y a un jeu qui, pour moi, traite quand même de cet aspect punk. C'est le jeu Sigmata. Alors, pas Stigmata, hein, Sigmata de Shadowwalker, celui qui a fait Cryptomancien. C'est un jeu, donc le sous-titre, c'est « Ce signal tue les fascistes ». Donc c'est les personnages diffusent une sorte de signal qui est diffusé et donc ils s'opposent à une sorte de société fasciste. Donc c'est vraiment au cœur de ce jeu-là.
Je pense que, enfin, je suis pas une très bonne connaissance du mouvement punk, mais je pense que là-dedans on se base pas sur le mouvement punk. En fait, on est dans les années 80, il y a quand même une sensation d'échec des utopies. Globalement, dans la société américaine, en fait, le côté punk, en réalité, ça va plus être le fait de jouer des marginaux qui sont désespérés, en fait, qui essaient juste de survivre eux-mêmes. Il y a un côté très individualiste, en fait, où c'est juste ma pomme, mes potes, voire ma famille, et il n'y a pas d'objectif contestataire. Ça n'empêche pas que dans le cyberpunk, il y a beaucoup de cas, Shadow Anarchy est un très bon exemple, il y a le mot anarchie dedans, hein, comment dire autrement, et c'est paradoxal, parce que d'un côté, dans Shadow Anarchy, tu bosses pour les corpos, mais ça ne t'empêche pas d'être anarchiste à côté, en fait. Donc c'est effectivement une contradiction qu'on pourra travailler dans la partie suivante, c'est peut-être qu'on parlait. John, je t'en prie.
Yep, merci, bonsoir à tous. Si tu veux, je te la fais, ta transition, parce que c'est ce que je suis en train de me dire, c'est que... Et puis je vais rebondir un peu sur ce que tu disais aussi. Pour moi, le côté low life punk, c'est vraiment une coloration du cadre de jeu dans un univers cyberpunk. Il faut qu'il pleuve, il faut qu'il fasse moche, il faut que les rues soient sordides, qu'il y ait des déchets qui traînent, que les gens souffrent de problèmes alimentaires parce que tout le monde mange de la junk food ou des créations un peu artificielles pour les repas, qu'il y ait de la drogue qui traîne. Et les persos qu'on joue très souvent dans un monde cyberpunk, c'est en fait des gens qui ont besoin de s'en sortir et qui sont prêts à faire toutes les basses besognes pour y arriver. Très clairement, on joue pas les agents de la corpo qui ont le super équipement, qui sont hyper préparés, mais on joue les agents au rabais jetables, les Kleenex qui vont utiliser pour pouvoir se dédouaner et dire « Ah non, c'est surtout pas nous, la preuve, ils avaient absolument pas nos tenues, ils avaient pas notre équipement. » Et en fait, on est vraiment en bas de l'échelle, quoi. On fait semblant d'être des loups, mais on est plutôt les proies de ce monde complètement pourri, et ça va être effectivement les corpos qui vont dominer le monde, les grandes stars qui vivent dans un monde complètement différent, souvent même à l'extérieur de la planète, et puis en dehors du monde, dans un endroit complètement privilégié, et sûrement pas dans les quartiers pourris que fréquenteront beaucoup plus les personnages des joueurs. J'en ai terminé et je te rends la parole du coup, merci.
Ok, merci John. Il y a quand même des côtés, hein. Alors moi je vais même m'écarter un peu du JDR, mais il y a quand même des côtés où il y a quand même un côté que je trouve révolutionnaire, même dans le cyberpunk, même dans Shadowrun. Hein. Dans Shadowrun, il y a un truc qui s'appelle le Flux State. Bon, alors, ça marche pas très bien, hein. Ça marche quelques dizaines d'années, je crois. À Berlin, c'est dans le lore, hein, de l'univers, et en fait c'est une espèce de commune anarchiste dans la ville de Berlin. C'est un ensemble de quartiers où il n'y a plus de lois, plus de méga-corpos, etc. Mais évidemment, dans le lore, les corpos vont finir par détruire le Flux State de l'intérieur. Et le Flux State, c'est un endroit qui a été créé par des runners, à la base, par exemple. Il y a aussi un autre cas, je vais glisser un truc d'un film que moi, je considère comme cyberpunk, mais pas tout à fait, enfin, c'est un peu bizarre. C'est Strange Days, par exemple. Au début, le mec est un espèce de gars qui n'a aucun scrupule, aucune conscience. D'ailleurs, on le voit bien dans le film. Hein. Et finalement, il se rend compte qu'il y a une saloperie qui est faite. Je ne vais pas spoiler, mais il va faire quelque chose contre ça, en fait. Il y a une saloperie de faite et il va agir, en fait, pour résoudre la saloperie. Bon, je ne vais pas en plus en parler. Mais donc, il y a quand même... Même dans le JDR, je pense que... En fait, c'est au choix du joueur. C'est au choix du joueur. Je vais en parler dans la deuxième partie sur les corpos. Mais au choix du joueur, en fait, le choix du joueur peut complètement dire « Bah écoute, moi, j'ai décidé de tromper, d'arnaquer cette corpo pour qui on bosse. » de ne pas finir le travail, voilà, de mentir en fait, hein, de dire bah écoutez, la puce que vous nous avez envie de récupérer, on l'a pas, elle a été détruite. Le mec nous avait demandé d'extraire, écoutez, on n'a pas réussi, voilà, ça arrive, voilà, ça nuit à ta réputation. Effectivement, on en parlera aussi dans la troisième partie, mais tu peux faire ce choix-là. Tu peux faire ce choix-là de dire à un moment donné, bah non, je n'obéis pas au Johnson, je double le Johnson, au lieu que le Johnson me double, hein, ça, voilà, je double le Johnson et c'est là qui, pour mon sens, qui va y avoir un des intérêts, en fait. Si jamais tu passes juste ton temps à obéir bêtement au corpo, peut-être qu'à mon sens, tu as un peu loupé le propos du jeu. Après, peut-être que c'est moi qui comprends ça dans le propos du jeu, hein, mais. Donc les corpos. Les corpos, alors on vient d'en parler. Le vrai problème, c'est que souvent, dans beaucoup de jeux de rôle, on bosse pour des corpos. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se sentir écrasé, bloqué par ce lore des méga-corpos ? Est-ce que la ville, la mégalopole, est un horizon indépassable ? J'ai l'impression que toutes les parties que j'ai faites cyberpunk avaient lieu dans un milieu urbain. Il y a aussi le côté qu'Ingin signalait, du côté un peu donjonesque, c'est-à-dire qu'on va être dans des labos, on va être dans des entreprises, on va être dans des usines, souvent dans des lieux clos, de manière générale. Donc il y a un côté un peu donjon, effectivement. Avec moi, j'ai joué beaucoup de battle map, hein, notamment à Shadowrun ou à Cyberpunk. Ça peut se passer à l'extérieur, dans des échanges de coups de feu et tout ça, mais il y a aussi la rue, hein, qui est quand même importante. Il y a des articulations entre la rue et la ville, voilà. Mais je me rappelle, par exemple, que quand j'ai pas joué normalement au jeu, hein, mais quand j'ai joué au jeu Cyberpunk 2077, j'avais l'impression que les Badlands, l'extérieur, voilà, l'endroit des nomades, n'était pas très très exploité, quoi, en fait. Ce qui était intéressant, c'était Night City, quoi. Voilà. Pareil, que ce soit dans Shadowrun, ça se passe majoritairement à Seattle, voilà. Et Cyberpunk, ça se passe majoritairement à Night City. Je vais quand même mettre une réflexion de Carole. Pour que ce soit vraiment en mode anarchiste, lutte contre le système, il faudrait commencer un vrai système de rébellion, pas juste garder les choses pour soi. Donc voilà, donc les méga-corpos, je rappelle mes questions que j'ai posées. Comment on fait pour ne pas se sentir écrasé, bloqué par cette mécanique de corpo ? Quel rôle ils peuvent avoir, en dehors du rôle d'employeur ? Rôle souvent employeur, parfois ennemi, mais rarement renversé complètement. Il y a une espèce d'horizon indépassable, et le côté des méga-entreprises, des multinationales. Inigin, je t'en prie.
Alors, les corpos... Alors, je parlais tout à l'heure d'analogie inversée avec les donjons, évidemment, mais pour moi, les corpos, elles incarnent d'abord la verticalité du pouvoir, au sens où ce qu'on voit des corpos, c'est plutôt ce qu'on met en scène, c'est plutôt les sièges sociaux, les grands immeubles couverts de verre, la mise en ROE. Et j'ai pas l'impression que le côté production des entreprises, ou alors vraiment seulement l'aspect énergie, secteur primaire, c'est-à-dire les mines, les endroits dégueulasses avec les mines de soufre, les mines de charbon, les trucs où vraiment on se bousille la santé. Mais c'est plutôt les sièges sociaux et les bureaux et les administrateurs et les becs en cravate dégueulasses, là, enfin détestables plutôt, pas dégueulasses, justement. Que les ouvriers moyens qui travaillent dans des conditions abominables. Ça pourrait être très intéressant. Le fond du fond de l'affaire, c'est que les corpos, ça sert à faire une critique sociale radicale du monde moderne et du monde futur, comme il va se profiler d'ailleurs, comme il se profile de plus en plus, et en miroir, merci du capitalisme tout à fait, l'image des corpos et de cyberpunk est utilisée dans le monde moderne pour dire là c'est vraiment le pouvoir des corpos, c'est vraiment le pouvoir des entreprises privées sur le pouvoir politique, et c'est aussi un peu ce à quoi ça ressemble actuellement, c'est-à-dire l'archétype de l'ennemi monolithique totalement invulnérable, indépassable, contre lequel on lutte sans borne et sans espoir, et qui par ailleurs paie nos fins de mois, parce que quand même on est des punks, mais on est aussi des runners, qu'il faut bien manger. Voilà, et j'ai fini.
Je vais juste faire un rapide insert avant de passer la parole à Euse. Merci Inigin pour ton intervention. Quand même une série excellente, moi je te le trouve génial, mais bon, beaucoup de gens l'ont mal critiqué, donc c'est n'est que mon opinion. Incorporated, où on suit quelqu'un qui s'est infiltré dans une corpo, quelqu'un qui a gravi les échelons, qui est à la base un mec de la rue, hein, un mec qui est un espèce de squatter, qui est très pauvre, et qui en fait s'infiltre dans une corpo et doit garder son rôle parce qu'il a un objectif. On peut discuter du fait que ce soit honorable ou pas, mais en réalité, il veut sauver sa sœur. Et la seule manière de sauver sa sœur, c'est de faire partie de la corpo. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur, en gros, les life, ils veulent aider leurs amis et leur famille aussi. Voilà. Et lui, il s'insère dans une corpo et fait des actions qui sont détestables, on le voit bien dans l'histoire, toujours dans l'objectif noble, à la base, de sauver sa sœur. Donc, il commet des actions, pas ignobles, mais non nobles, pour une action noble. Donc, c'est la fin justifie les moyens, etc. On pourrait pas forcément débattre de ça, mais la série est très très bien. Je conseille, même si malheureusement, elle n'a jamais été terminée, il faut le savoir. Il y a 8 épisodes et il n'y a pas de fin, quoi. Voilà, comme beaucoup de séries, malheureusement. Carole nous cite aussi Uploads à leur écrit, et on peut aussi parler de Severance, merci. On sépare leur vie extérieure de la vie de la corpo. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce que dans le cyberpunk, dans les mégacorpos, on voit souvent qu'il y a des drones, les runners appellent ça des drones, qui eux vivent uniquement dans la corpo, qui pourvoient à leur nourriture, à leur boisson, qui leur filent l'essai produit, qui les fait travailler pour eux, et en fait les gens ne sortent jamais du monde de la corpo, parce qu'ils y passent leur existence toute entière. Leur famille travaille pour la corpo, leurs enfants sont à la crèche de la corpo, et ainsi de suite. Je passe la parole à Euse.
Je sais pas, sur le sujet, ça mélange un peu deux trucs entre les corpos et le milieu urbain. Bon, les corpos, forcément, elles sont là, comme ça a déjà été dit, pour porter finalement une critique du capitalisme, quoi, et de la grosse concentration capitalistique. Mais par contre, pour ce qui est du côté milieu urbain, je pense quand même que c'est très très porté par forcément un univers ultra moderne, donc forcément ultra urbain, quoi, parce que le développement du capitalisme, ça a été aussi le gros développement urbain. On voit des développements urbains dans les villes du tiers-monde qui s'industrialisent ou qui se mettent à jouer un rôle important dans l'économie capitaliste. On voit des développements urbains absolument hallucinants. Donc moi, je trouve que c'est absolument légitime qu'on retrouve ça comme décor principal, quoi. Après, pourrait y avoir des choses intéressantes à voir, à sortir de ce milieu urbain, mais on serait plutôt sur une réflexion sur que devient l'agriculture dans ce cadre ultra cyberpunk. Mais on va imaginer sûrement des espèces de grands champs de trucs industriels, de production industrielle et des... la disparition complète des paysans à l'ancienne, quoi. Mais ça me paraît pas forcément le cadre qui permettrait d'avoir en tout cas énormément d'aventures style jeu de rôle, quoi. Donc le milieu urbain vient un petit peu naturellement là-dessus. Je laisse la parole au suivant.
Merci Euse. Je passe la parole à John.
Ouais, moi les corpos, je les vois vraiment comme la hiérarchie à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà la corpo est au-dessus de ce qui n'est pas corpo. Les corpos entre elles ont des classements. Il y a très souvent les très grandes corpos qui dominent d'autres corpos qui rachètent et sous-traitent plein de choses aussi derrière. Il y a aussi tout le côté, moi je suis un membre d'une corpo et puis je dois bosser pour moine plus 1 et moine plus 2, mais en même temps j'essaye de faire des crasses pour monter dans la hiérarchie sociale de la corpo et devenir le calife à la place du calife et grimper provisoirement les échelons en sachant que tous les gens qui sont à mon niveau essayent de faire de même et de me pourrir la vie pour faire en sorte que ce soit eux qui montent et surtout pas moi. Et que ceux qui sont en dessous de moi essayent aussi de prendre ma place en manipulant tout le monde. Donc il y a ce côté aussi très sombre dans le fonctionnement de la corpo. Ça se traduit évidemment aussi par une hiérarchie dans l'habitat où les gens qui travaillent pour les corpos voient un peu plus le soleil parce qu'ils habitent dans les étages supérieurs et plus on est gradé, plus on habitera dans les étages supérieurs, plus on aura aussi un bureau qui aura une jolie vue de ce point de vue-là. Et puis ouais, c'est tous les employeurs du reste du monde. C'est aussi eux qui vont gérer très souvent, quasiment toute la vie quotidienne des gens, en leur fournissant à manger, de l'énergie, un réseau pour pouvoir se connecter et échanger entre eux. C'est aussi des forces de l'ordre, la gestion de la municipalité, elle n'existe quasiment plus. Elle est très souvent aussi renvoyée vers les corpos qui ont un conseil corporatiste, comme on aurait pu avoir des guildes au Moyen-Âge qui dominaient une ville. À l'extérieur des villes, je pense aussi qu'on peut faire plein de choses parce que les corpos ont besoin de ressources, parce que les corpos sont aussi systématiquement en train de créer des nouveautés. voit très bien en agriculture, tout ce qui est génétiquement modifié, toutes les productions qui nécessitent derrière aussi d'utiliser beaucoup de matériel vivant pour faire des vaccins, des médicaments, des carburants qui sont souvent bioéthanol. Voilà, il y a plein d'endroits qu'on pourrait aussi exploiter, à mon avis, de ce point de vue-là. Et puis, ça fait des jolies explosions de faire sauter des dépôts de biocarburant ou de gaz, de détruire des laboratoires peuplés d'animaux qui sont en train d'être des sujets d'expérience génétique ou des choses comme ça. À toi, Narcy.
Alors, là-dessus, pareil, moi, j'ai fait une partie de CBPNK récemment. C'est plutôt un jeu... Je sais plus, c'est sur Blade in the Dark, je crois, comme système. Forge in the Dark, pardon. C'est assez intéressant. Et en fait, justement, on a fait un one-shot qui était à l'extérieur, en fait. On était dans un hélicoptère qui s'est crashé, et on s'est retrouvé en pleine montagne. Et donc, on est tombé sur un laboratoire, etc. Un peu ce que disait John à l'instant. Je sais pas trop comment est fichu l'univers de Cyberpunk, mais il me semble que... Cyberpunk, le JDR, hein, de Mike Monspice. Mais il me semble quand même que c'est surtout Night City qui est décrite, et que les Badlands, il n'y a pas grand-chose à part des nomades et des gangs, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle les Badlands, d'ailleurs. Pareil, il y a un autre jeu de rôle qui s'appelle Neon City Overdrive, je crois, dans lequel, si je ne dis pas de bêtises, sinon c'était une adaptation, mais il me semble qu'il y a une cité, et autour, tout le reste, c'est interdit. Il y a aussi ce trope dans Shadowrun, hein, parce que dans Shadowrun, il y a des zones irradiées. Ouais, il y a des zones où on ne peut pas aller... Il y a des nations amérindiennes, des nations natives qui sont peut-être moins hyper technologiques. Malheureusement, on joue trop souvent à Seattle pour que je me fasse une idée de The No City, merci, The No Zone, merci John. Donc il y a souvent cette opposition effectivement entre la ville et ce qu'on appelle souvent soit la No Zone, soit les Badlands. Donc voilà, c'est pareil dans un autre film qui est un peu qui n'est pas vraiment cyberpunk, mais qui reprend des éléments et qui parfois a été classé là-dedans. Dans Dredd, le dernier film adaptant Judge Dredd, c'est typiquement ça. Il y a Metro City One, qui est une espèce de gigantesque mégalopole qui s'étend sur plusieurs états en prenant plusieurs villes dedans. Et il y a tout le reste extérieur qu'on explore très peu. Enfin, Judge Dredd y va des fois, hein, dans les BD. Mais où c'est des cannibales, des pillards, des motards, on est plus vraiment dans le cyberpunk à ce moment-là, mais plutôt dans un croisement presque avec une esthétique post-apo, où en fait dans les Badlands, c'est Mad Max, quoi, en fait. Voilà, c'est Mad Max, quoi. Voilà. Alors qu'à l'inverse, en ville, on va avoir une hyper-technologie. Voilà. Je passe la parole à Virgile.
Oui, dans le prolongement de ce que tu disais, moi j'avais effectivement, pour éviter ce côté écrasement des corpos, exploiter tout ce qui est marge, tout ce qui est zone hors d'atteinte des corpos, hein, donc mettre ça en scène. Une autre piste aussi pour moi, c'est de personnifier les corpos, c'est-à-dire que les corpos, c'est quand même souvent des gens qui travaillent pour eux, donc le fait de mettre en face des personnages, des individus qui développent des projets ou qui les engagent, etc., ça permet aussi de rendre ça un peu plus acceptable et un peu moins écrasant, je pense, de donner un visage. Après, il peut y avoir une sorte de cadre mécanique dans le jeu qui permet de cadrer un peu le pouvoir de la corpo. C'est le cas, par exemple, dans The Sprawl, où les corpos sont gérés par des horloges et finalement, elles ne vont répondre aux personnages que quand l'horloge va atteindre un certain niveau. Donc ça évite d'utiliser la pleine puissance de ces entités qui ont d'énormes ressources à leur disposition pour balayer à la volonté du meneur les PJ, hein, parce que on pourrait être tenté aussi de ça. Au niveau des autres rôles que peuvent avoir les corpos, je l'ai peu vu utiliser, mais il y a tout simplement vraiment jouer des membres d'une corpo, c'est-à-dire que tous les joueurs soient membres d'une même corpo et travaillent à l'intérieur de cette corporation. Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant d'utiliser ça dans un cadre de jeu, voir un peu ce que ça pourrait apporter. Au niveau des environnements non urbains, il y a un environnement qui, je pense, pourrait bien se marier avec l'esthétique cyberpunk. C'est tout ce qui est environnement très sauvage, comme les jungles. On voit souvent un peu on imagine facilement des guerriers, un petit peu des soldats cybernétisés qui s'aventurent dans des théâtres un peu d'opérations délicats. Comme ça, je pense que c'est aussi des choses, parce que finalement, il y a un parallèle à faire entre la jungle urbaine et la jungle réelle, finalement. Je pense qu'il y a aussi ce propos-là dans, dans les jeux cyberpunk, c'est que la ville, c'est une jungle. Voilà, j'ai fini.
Merci, merci Virgile. Donc, je vais parler des runs. J'ai l'impression que le run, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est un peu un horizon indépassable. Toutes les parties que j'ai faites, The Sprawl, CBR, PNK, Shadowrun, Anarchy, Shadowrun, même les parties de cyberpunk, c'était des runs, en fait. J'ai l'impression qu'on est un peu coincé dans un espèce de jeu à mission. Alors, il y a un fil rouge, hein, en général, dans une campagne. Mais d'un côté, ça se pète très très bien one shot, parfaitement, hein, même, voilà. D'un autre côté, en campagne, est-ce qu'enchaîner les runs, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Je sais qu'il y a les campagnes du commerce, mais j'ai pas encore l'occasion de les faire. L'autre problème, c'est, ouais, donc, peut-on jouer autre chose que des mercenaires accomplissant des missions d'attraction pour les corbeaux, ou comment le jouer tout en se renouvelant? Il y a l'idée qu'en général, le runner, logiquement, il est plutôt solitaire. Dans une équipe de runners, comment on fait pour éviter que quelqu'un capte toute la lumière? Ça, j'en parlerai dans la prochaine partie, hein. Notamment, il y a un gros problème avec la matrice, tout ce qui va être informatique. Mais ça, on va parler dans la prochaine partie. Et j'ai l'impression aussi que c'est toujours un peu les mêmes archétypes. Il y a le Street Sam solo, qui est blindé d'augmentation et qui est plutôt un mec physique. Il y a le Fixer Face, qui a des contacts et qui va faire le lien entre le Johnson, qui va... Le mec a des contacts, quoi, voilà. Il y a le Netrunner d'Ecker Technomancien. Lui, c'est le hacker, quoi, concrètement. Il y a le Rigger, pilote de drone. Et parfois, on va avoir aussi des Sharkudok ou des infiltrateurs espions. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a des gros archétypes qui sont pas, qui sont vraiment classiques et qui sont vraiment des tropes du cyberpunk et que j'ai l'impression qu'on a du mal dans les jeux de rôle à sortir de ça, quoi. Donc, effectivement, deux points, les runners un peu caricaturaux et les runs à horizon indépassable, quoi. Asgard, je t'en prie.
Alors, moi, je vais faire une jaune, ce qui veut dire que je vais hijacker le sujet pour le transformer légèrement vers autre chose. Ce qui me pose problème à moi, quand c'est plusieurs fois en fait que je tourne autour du principe de faire jouer du cyberpunk, parce que je pense qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à jouer dans ces univers-là, ce qui justement me pose moi un souci, c'est que la façon mécanique de gérer des runs me plaît jamais. Parce que j'ai toujours l'impression que la run, c'est une façon de faire un braquage, hein, somme toute, voilà, du faire du Ocean Eleven, peut-être qu'il... Le run, je sais pas, peut-être qu'il faudrait réussir à jouer autrement. Il faudrait peut-être regarder du côté des jeux comme Un coup de trop, je crois, en Descended from the Queen, ou ce genre de jeu-là, parce que je pense qu'il y a autre chose. En fait, il faudrait, pour moi, que si on veut renouveler l'idée du run, il faudrait que le run ou la run soit une façon de mettre en jeu le lien entre les personnages et l'univers et les personnages entre eux. Et à partir de ce moment-là, je trouverais ça beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui où effectivement ça consiste à avoir des archétypes assez basiques et qui, bon, après c'est le principe d'archétype, ensuite on construit autour de l'archétype, mais qui n'offre pas une façon complète de voir les choses. Ou alors, il faudrait carrément y aller encore plus dans le cache, il y a peut-être des jeux qui le font, en disant, bah voilà, pour faire ce run, vous allez avoir besoin de ça, ça, ça et ça, une voiture, un moyen d'entrée, un moyen de neutraliser les caméras, et ceci et cela, et donc chacun de vos personnages a un rôle pour ça, un peu à l'avenir de l'anneau unique, hein, quelque part, et quand il va y avoir besoin d'un jet pour obtenir telle information, ça sera automatiquement tel joueur qui le fera. Et ensuite, on raconte comment est-ce qu'on obtient l'élément, et non pas comment est-ce que on va peut-être réussir à l'obtenir, ou alors, en fait, on se concentre sur les moments où on obtient la chose, en sachant qu'on les obtient avec plus ou moins de réussite. Et donc plus ou moins de passifs, et donc peut-être plus ou moins de conséquences. Là, on rejoint l'idée des horloges, mais il faudrait réussir à tourner chacun de ces cadrans de l'horloge autour de quelque chose de plus grand. Et je passe la parole à Narcy.
Merci Asgard. Pour ton intervention. Moi, je trouve que, par exemple, je me rappelle depuis quelques parties de The Sprawl. Dans The Sprawl, il y a un peu cet aspect-là, et en même temps, ça reste des playbooks. Hein. Donc voilà, il y a un côté... on émule un trope, hein, comme tous les PBTA. On émule des tropes. Mais il y a la notion quand même que n'importe quel playbook peut acquérir, je crois, un indice ou du matos. Voilà, c'est pas le... voilà, tu peux avoir des bonus en fonction de tes stats, en fonction de tes moves, pardon. Mais n'importe qui peut acquérir un indice ou du matos. Enfin, j'ai pas le terme d'indice, mais c'est pas le terme d'indice, c'est un autre terme. Je crois que c'est info ou quelque chose comme ça. Et en fait, si tu as. Mais t'as une... enfin, moi, je trouve qu'il y a une structure très mécanique dans Info. Merci, Virgile. Tu as une structure très mécanique dans le sprawl qui fait que tu as vraiment un découpage de phases. Le contact, la préparation de la mission, les retombées. Voilà. Et en fait, moi, quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça assez méta, en fait. C'est-à-dire que les gens ne RP pas, ne roleplayaient pas. Ils n'incarnaient pas le personnage. Ils étaient très, très méta pour tout ce qui est de la préparation. En fait, toute la prépa, c'était du méta, en fait. C'était pas joué en jeu et moi ça m'avait beaucoup frustré. Autant la mission, même la mission en fait c'était pas mal méta, même s'il y a eu un peu de RP, mais j'ai pas été convaincu par The Sprawl en termes de partie. Après j'ai jeté un œil au bouquin, je me suis dit ouais c'est super, mais je trouvais qu'il y avait une structure très mécanique en fait, très hiérarchisée, c'est-à-dire que c'est toujours la même structure et ça se retrouve un peu dans tout jeu cyberpunk, j'ai l'impression quoi. D'abord on rencontre le Johnson, après on prépare la mission en se renseignant. Et ensuite, y a la mission, et après, y a le paiement. Et c'est toujours un peu la même structure que j'ai vue dans toutes mes parties de Cyberpunk. Je sais qu'il y a une campagne là que je suis en train de faire à Shadowrun qui s'appelle Free Seattle. Je crois qu'il y a d'autres notions que la mission, parce que c'est une campagne officielle, donc j'estime que c'est pas une accumulation de missions. Mais on retrouve ça aussi dans d'autres jeux, hein. C'est-à-dire que par exemple, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, mais Knight... Qu'est-ce que c'est, Knight? Chaque scénario s'appelle une mission. Donc chaque scénario est une mission, voilà, qui est peut-être moins hiérarchisée que dans The Sprawl, mais ça reste des missions, quoi. En fait, il y a plein de jeux à mission. Est-ce que c'est forcément un problème, les jeux à mission? Ça marche très bien en one-shot, en campagne. Il y a un côté répétitif, comme disait je sais pas qui, mais je ne sais plus qui. Mais bon, voilà, c'est... voilà. Je t'en prie, Virgile.
Oui, il existe un jeu pour moi qui se sort un peu de ce cadre de mission. C'est un PBTA qui s'appelle The Veil et qui propose aussi des playbooks très originaux. C'est-à-dire on va pas retrouver du tout les archétypes que tu as définis. Par exemple, il y a un archétype, là, c'est le mourant. C'est-à-dire que tu es atteint d'une maladie incurable. Et donc, ça a une influence sur le personnage que tu vas jouer. Donc, il y a des profils qui sont beaucoup plus originaux, beaucoup plus proches, on va dire, de thématiques de science-fiction. Et qui vont permettre d'aborder aussi le jeu, de proposer autre chose que des runs, et de proposer voilà, justement des interactions entre les personnages, et de construire peut-être d'autres schémas. Voilà, c'est, je pense qu'il existe des alternatives, elles sont peu nombreuses, c'est vrai, mais il y a quelques petites choses qui sont proposées. Voilà.
Les Saman nous dit que The Veil propose du world building avant la partie pour casser ce trop plein de missions. Ouais, je sais pas si ça... J'ai pas joué à The Veil, hein. Je teste, je le note. Ce trope. The Veil propose du world building avant partie pour casser ce trope de mission. Voilà. Mais The Sprawl, ouais, il fait aussi, mais en fait, pour moi, ça change pas grand-chose, en fait, tu vois. Il fait du world building, mais ça va juste donner un décor, quoi. En fait, ça va juste donner un décor, même si le décor est super sympa et original. Je crois qu'il y a un supplément de The Sprawl qui fait que ça, d'ailleurs. C'est Metapol, je crois. Metapol, merci. Hein. Voilà. Qui donne des settings qui sont plutôt cool, a priori. Bon. Voilà. Et de toute façon, le côté world building, il me semble que c'est assez courant dans les PBTA, je crois. Enfin, moi, tous les PBTA que j'ai fait ont passé un temps assez long et assez méta d'ailleurs à co-construire l'univers. Et généralement, c'est des parties qui sont. C'est un moment de la partie qui est assez cool, je trouve. Je passe la parole à John.
Pour éviter les runs, en fait, je pense qu'il faut essayer de prendre les jeux par la bande. Alors, Shadowrun, typiquement, le nom l'indique, hein, on joue des runners. Donc, c'est un peu compliqué de faire autre chose, même si, avec l'univers encyclopédique qu'ils fournissent et puis toutes les possibilités du jeu, on peut faire tout ce qu'on veut, à mon avis. J'ai beaucoup joué à Cyberpunk, j'ai fait une campagne de flics. On n'était clairement pas punk parce qu'on était des flics des rues ou des enquêteurs. J'aurais bien aimé, à un moment donné, faire une campagne qui était plus. Basé sur des rockers, peut-être, parce que à Cyberpunk, une des classes de personnages, c'est des rockers, hein, qui sont là en gros quand même pour essayer de diriger et puis de motiver les foules pour en faire quelque chose de différent. C'est un peu le cas aussi d'un des playbooks de The Sprawl, si je dis pas de bêtises. Une campagne de médias, ça peut être chouette aussi à jouer pour essayer de faire ressortir certaines mauvaises manières des corpos, pourquoi pas. Il y a moyen de faire autre chose que du run. Il y a moyen de bosser sur la vie d'un quartier aussi, si on a envie, d'être plus à l'échelle des gangs et puis d'un territoire qu'on essaye d'améliorer. Et là aussi, on peut jouer un peu tous les archétypes à plus bas niveau. Parce qu'on ne va pas être confronté à la puissance en face d'une corporation, mais plus à des petits gangs ou à des très gros gangs, à quelques trafiquants, peut-être à un moment ou un autre à une mafia, à des difficultés corporatistes peut-être, mais où on va plutôt suffisamment pourrir l'ambiance dans le coin pour qu'ils se décident d'aller dépenser leur argent ailleurs, parce que ce sera plus rentable. Voilà, donc, je pense qu'il y a moyen de décaler un petit peu les jeux et d'en faire quelque chose de différent si on le souhaite. Après, c'est sûr qu'on est un peu marqué par des idées de jeu, et c'est aussi du jeu très tradi si on joue des runs, parce que je l'ai noté tout à l'heure par écrit, mais je vais le répéter ici, un run, ça a l'avantage d'avoir un MJ qui a préparé quelque chose, qui va nous proposer sa partie, et derrière, eh ben, les joueurs, ils ont juste à rentrer dans le cadre et puis à faire en sorte qu'on avance dans cette histoire. Si on n'est pas sur cette ambiance de run, mais qu'on essaye de faire autre chose, ben, il va falloir des joueurs qui sont beaucoup plus proactifs et qui vont faire en sorte que leur personnage aussi soit pas... à subir ce qui se passe, mais à essayer de faire bouger la société autour d'eux. Et j'en ai terminé.
Merci John. On nous dit à l'écrit, Cyberpunk 2030, de mémoire, se centrait plus sur la vie et les conflits entre quartiers que les conflits entre les corpos. On nous dit aussi, l'influence de Cyberpunk et Shadowrun reste majeure et les rôlistes aiment souvent cet aspect mission, etc. Micromanagement du perso et son équipement. Ok, on va passer à la partie suivante. Donc, moi, j'ai appelé ça le problème matriciel. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, la matrice, c'est un espèce de surespace numérique. En gros, c'est l'Internet, mais c'est le métaverse, quoi. Enfin, c'est le métaverse, quoi. En fait, c'est Internet, mais plus, quoi. Voilà, donc, il y a un métaverse, une espèce de dimension numérique qui serait à part du monde réel. C'est un trope qui est très, très souvent utilisé en cyberpunk. Hein. Il me semble que c'est déjà le cas dans Neuromancien, où il y a la présence d'une matrice. Il y a évidemment, c'est évidemment un terme qui a été repris par Matrix, voilà, où la matrice est en fait le monde des machines, enfin le monde qui a été créé par les machines. Et on voit bien d'ailleurs aussi, bon, on pourrait parler de Matrix rapidement, mais j'avais dit qu'on parlait surtout de JDR. Dans Matrix, les mecs font des runs, quoi, en fait. Hein. Ils vont dans la matrice pour extraire des gens, pour faire péter des usines, pour attaquer un tel ou un tel. Bon, c'est des runs, en fait, Matrix. Hein. Voilà, c'est des runs, quoi. Voilà, c'est des runs dans la matrice, quoi. Voilà, enfin, moi, je le vois comme ça. Hein, mais je simplifie Matrix à l'extrême. Hein. Attention, je sais bien que c'est pas que ça. Donc, en fait, oui, la matrice, moi, je trouve ça chiant. Voilà, c'est chiant. L'autre fois, je me rappelle qu'on a eu 45 minutes lors d'un Shadowrun Anarchy où le Decker jouait tout seul dans la matrice, quoi. Comment on fait, en fait? Est-ce qu'on laisse complètement tomber la matrice, alors que c'est quand même un gros aspect du cyberpunk? Est-ce qu'on se dit, bon, bah, tes scènes matricielles, tu les joues tout seul en interpartie parce qu'en fait tout le monde s'emmerde, quoi, pendant ce temps-là. Je sais aussi que dans l'ancienne édition de Shadowrun, on m'avait dit qu'en fait le run matriciel était très très pénible, les passages en matrice étaient chiants, parce que ça pouvait durer une session entière, c'était très très complexe, voilà. Pour l'anecdote d'ailleurs, il me semble que c'est GURP Cyberpunk qui a créé une matrice tellement réaliste qu'en fait, ils ont eu des problèmes avec les services secrets américains parce que, en fait, les mecs se disaient, mais comment ils peuvent savoir autant de choses sur la sécurité informatique? Bon, pour la blague, quoi. Voilà, moi, je sais pas, j'ai pas lu GURP Cyberpunk, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit lors de mes recherches. Je passe la parole à Asgard.
Et je tiens par avance à signaler que ce que je vais dire n'est pas une forme déguisée d'appel à l'aide, parce que je vais citer une très bonne idée d'une chaîne qui s'appelle Zone Geek et qui fait notamment Histoire au coin du D20, que je vous recommande. Parce que c'est très éloigné de ma pratique, mais c'est très amusant du coup de suivre et de comparer. Et il s'avère qu'ils ont fait un Shadows and Dragons, donc un mélange, enfin plutôt l'adaptation des règles de Donjons et Dragons 5e édition à Shadowrun. Et dans cette façon que Lilus, pardon, excusez-moi, je comprends Gulik, a créé, a mis en place, en fait, la partie matricielle est traitée avec un donjon de Donjons et Dragons. Et donc du coup, ça veut dire que les personnages qui ne sont pas spécialistes en matrice peuvent accompagner le personnage qui est spécialiste en matrice dans le donjon virtuel pour l'aider à combattre des monstres de Donjons et Dragons, reskinés ou pas selon le cas. Mais du coup, ça permet en fait de faire un donjon dans le run. Ouais, alors, c'est un concept très, très spécial, hein, voilà. Mais du coup, ça permet au runner d'être spécialiste dans les traitements matriciels, parce que lui, du coup, ne risque pas sa vie en rentrant dans la matrice. Les autres, oui. Mais du coup, c'est un hack de groupe, en fait, entre guillemets. Et après, il y a plein de règles spécifiques sur le fait que les spells sont juste reskinés. Enfin bref, je vous invite à regarder la vidéo où il en parle, c'est vraiment très intéressant. Mais du coup, je pense que gérer la matrice en groupe, en fait, c'est la meilleure façon de faire, voire même peut-être connecter tous les personnages ensemble. Voilà, ça pourrait être une façon aussi de faire. Et je passe la parole à John.
Ouais, je vais faire une Jones. Je vais prendre le problème par la bande. Moi, j'ai jamais compris à quoi servait la matrice, en fait. C'est pas du tout l'internet qu'on a à nous. C'est-à-dire que si on veut choper une info, bah, il faut se connecter, il va falloir se déplacer sur la grille, aller dans un endroit, rentrer dans la base de l'entreprise ou le truc public dans lequel on peut trouver les infos, se déplacer jusqu'à chercher. Si on doit changer de ville, bah, il va falloir qu'on se connecte au loin, qu'on ait du coup plein de grésillements parce que la connexion va être complètement pourrie. Et que, en gros, chercher un numéro de téléphone de quelqu'un, c'est juste impossible sans pleurer. Aller commander ses sushis chez Uber Eats, c'est complètement impossible. Et en fait, tout le monde est connecté à la matrice, mais pour en faire quoi ? Ça, j'ai jamais vraiment compris quel était l'intérêt. Et au fur et à mesure, bah, ils essaient de rajouter des trucs, de nous dire « Ouais, mais du coup, tous les objets du quotidien sont aussi connectés à la matrice, mais sans que ça serve à autre chose qu'à se faire pirater par tous les furieux qui traînent dans le coin. » Et voilà. Sans compter, évidemment, bah, le temps passé à essayer de faire autre chose que de se connecter, que de hacker des trucs, qu'il faille 63 jets pour obtenir un résultat. Donc, voilà. Si un jour quelqu'un peut aussi m'expliquer quel est le rôle de cet endroit bizarre, cette espèce de monde des esprits qu'est la matrice dans l'univers cyberpunk, ben, je suis preneur. Parce que, voilà, trouver des infos, bah, officiellement on peut le faire, mais on ne sait pas trop comment. Et puis quand on compare avec ce qu'on est censé faire quand on hack, eh ben, c'est qu'il se passe des choses complètement tordues. Et je passe la parole au suivant.
Merci John, je vais passer à Uz.
Oui, pardon. Ouais, moi cette question de la matrice et du bordel que c'est, je me pose vraiment la question. Enfin, c'est un peu la même chose que le run. Moi, j'ai l'impression que ça a été fixé principalement par un jeu et principalement par Shadowrun. En tout cas, le fait d'être des runners, etc. J'ai l'impression que Cyberpunk comme jeu était plus libre là-dessus, quoi. Et le fait d'avoir une matrice, d'avoir une partie run comme ça de hack qui se fasse dans une matrice super super chronophage à jouer, j'ai l'impression aussi que c'est une tradition qui est née dans le jeu Shadowrun. Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe ? Est-ce que ça existait déjà ailleurs ? Là-dessus, je vois vraiment un trope qui a été créé par le jeu de rôle et par un jeu de rôle en particulier. Et je pense que c'est quand même assez facile de faire du cyberpunk en se passant de ce gros machin très lourd, quoi.
Alors, merci, Oz. On a eu plusieurs interventions à l'écrit. Il me semblait quand même que les Netrunners, ça prend aussi beaucoup de temps hein, dans Cyberpunk, les premières éditions. Moi, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu de Netrunner dans l'équipe que j'ai fait quand j'ai joué à Cyberpunk une fois il y a très longtemps. J'avais joué à 2020, je crois, une des premières éditions. Peut-être la deuxième, je crois que c'était la deuxième, mais peu importe. On nous dit à l'écrit que Neon City Overdrive propose une option appelée Piggyback, permettant aux hackers ou hackers d'amener avec lui d'autres joueurs. On nous dit aussi que dans The Sprawl, il y a un hack de groupe de mémoire. Le souci, c'est lorsque la mécanique est spécifique au hacking. Voilà. De toute façon, il y a une, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a une sous-mécanique de hacking qui est généralement longue et tactique, voire complexe. L'intérêt de la matrice, je pense, pour répondre à John, c'est que c'est un trope, déjà, c'est un trope. Et ça montre une réalité virtuelle, ça montre un progrès de la technologie. Aujourd'hui, sans aller jusqu'à faire la prospective, je suis très mauvais pour ça, mais on sait qu'il y a des phénomènes avec de la réalité virtuelle, on sait qu'il y a des phénomènes avec un fantasme comme dans le film Ready Player One d'un monde dans lequel on pourrait vivre en permanence pour fuir nos problèmes réels, voilà, l'Oasis, hein, qui porte d'ailleurs un nom intéressant, quoi. C'est-à-dire parce qu'en fait le monde extérieur c'est le désert, je le vois comme ça en tout cas. Et le monde virtuel, c'est l'Oasis. Et puis il y a l'idée également, ouais, ça, c'est un rapport avec la technologie, quoi. Voilà. On voit ça aussi dans un autre film qui s'appelle Upgrade, un autre film cyberpunk. Je passe trop spoiler, mais à un moment donné, en gros, le mec rentre dans une salle et il voit plein de gens malingres, extrêmement maigres, qui sont avec des casques de RV et qui en fait ne font plus rien à part être dans la RV, quoi. D'ailleurs, il y a une scène où il arrache son casque, le mec pète un câble. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un lien peut-être avec les, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un phénomène au Japon où il y a des gens qui sortent plus de chez eux et qui passent leur temps sur Internet, quoi. J'ai plus le nom exact, mais bon, voilà. Donc en fait, je pense que c'est surtout une représentation de ce phénomène-là. Mas, je t'en prie.
Je pense que c'est quand même plus lointain. Je veux dire, dès les débuts de du cyberpunk, du coup, dans ce qui est les œuvres littéraires ou même cinématographiques, on a ce concept d'un double monde, en fait. C'est ça, la matrice, c'est un double monde, un monde caché où seules certaines personnes peuvent y accéder. Je pense tout simplement à Tron, tu vois, de Disney, où on va rentrer dans l'ordinateur et on va devenir une sorte de voilà. Après, Matrix le fera un peu plus, d'ailleurs, un peu plus de façon plus dystopique, on va dire. Voilà, mais y a, dans les années 80, il y a quand même pas mal de films comme ça où le but, c'est rentrer dans la machine, en fait. C'est, voilà, et dans la machine, c'est un autre monde et on peut agir grâce à ce qui était des runners, quoi. Dans Tron, le gars qui rentre pour les jeux et compagnie, ça fait un peu ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a toujours, dans ce concept de cyberpunk, qui a toujours un peu fasciné les personnes sans... Pour autant que ça en fasse, que ça fasse normalement la chose la plus importante d'un jeu, mais je pense que les artistes qui ont créé des jeux par rapport à ça, ils se sont vraiment inspirés de ce qu'il y avait dans les fictions de l'époque, quoi. Et c'est resté, du coup, parce que quand on a l'habitude d'une chose, après on la garde.
Merci Mas, je passe la parole à Virgile.
Oui, moi je pense qu'il faut remettre dans le contexte aussi de l'époque. Faut voir que quand ce concept de matrice est apparu, on était bien loin de l'Internet tel qu'il est maintenant. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas à ce point-là, je pense. Donc c'était un peu une projection, c'était l'anticipation de tout ce qui allait arriver là. Et ça permettait aussi, on le voit dans les romans de Gibson, d'aborder aussi le lien avec la mort. Parce que par exemple dans Gibson, il y a l'histoire du tréplat, de ces runners qui ont disparu dans la matrice et dont la présence est encore là, rémanente. Donc il y a aussi ce côté un peu, comment on appelle ça, transhumanisme, qui est abordé par ce biais-là. Alors après, par rapport à comment gérer ça de façon pas trop pénible, moi je trouve que The Scroll s'en sort pas trop mal. Il y a quelques moves qui permettent de gérer ça. On fait les GD, il y a moyen assez facilement, je trouve, de scinder le groupe et de passer de l'un à l'autre d'une façon assez dynamique, puisqu'il y a des sortes de jetons à dépenser. Et ça, je trouve que voilà, on n'a pas quelque chose à explorer de façon très très donjonesque. On est plus sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Ouais.
Dans l'esthétique visuelle, donc jeux vidéo, films, séries, voilà, c'est l'un des intérêts, c'est de rendre visuel. Dans le jeu de rôle, c'est différent, mais dans le jeu de rôle, je pense qu'un des intérêts, c'est de donner du jeu à la base au hacker. Qu'il n'y ait pas juste l'idée que je fasse un jeu de piratage, voilà, et je... C'est résolu, quoi. Si ça marche, tu pirates. Si ça marche pas, tu pirates pas. Je me demande si ça n'a pas été fait pour ça aussi, pour donner un peu de l'épaisseur au décœur. C'est intéressant, mais à mon sens, ça donnait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le décœur est devenu méga important. En réalité, tu te rends compte que, par exemple, moi, l'autre fois, j'avais joué un Face, tu vois. Le Face, il servait qu'au début et à la fin. En tout reste de la mission, on me disait, ah non, tes contacts, ils te répondent pas. Enfin bon. Mauvaise gestion du MJ sans doute, mais bon, peu importe. On nous dit aussi à l'écrit, c'est le seul moyen dans certaines fictions de s'interfacer avec des systèmes informatiques protégés. Personnellement, moi je vois l'intérêt de la matrice. Je trouve que la perspective fictionnelle est super intéressante. Par contre, je trouve que la mécanique est super chiante. Bon, c'est mon opinion personnelle, hein, mais bon. Effectivement, le côté la mort, où effectivement, je crois que tu as des trucs où dans Eclipse Phase, bon, il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas qu'Eclipse Phase soit un jeu cyberpunk, parce que c'est plus un jeu transhumaniste. Mais dans Eclipse Phase, par exemple, tu peux avoir des banques de données où ton esprit est stocké, en fait. Tu n'es pas dans la réalité, tu as même un truc qui s'appelle l'infosphère, je crois, où en fait les gens n'ont pas de corps et interagissent entre pur esprit, quoi. Il me semble que j'avais lu ça quelque part dans le livre de base, première édition. On va peut-être passer à la question suivante. Le noir. On a beaucoup parlé du noir un peu dans la deuxième partie avec les corpos. Alors le noir, il y a un jeu qui est quand même que je vais quand même citer, qui porte carrément, qui est un jeu cyberpunk qui porte carrément ce terme dans son nom, c'est Technoir. Technoir, à la fin de la création de personnages, on a des PJ qui sont dans les ennuis jusqu'au cou, qui doivent des faveurs à des types louches qui ne manqueront pas de leur demander au cours de la séance, équipés de matos de pointe et très compétents. Il y a quand même une vraie esthétique du noir. On en parlait tout à l'heure, qui a principalement été fondée par Blade Runner, parce que Blade Runner est un film noir, purement et simplement, hein. Il pleut tout le temps, on suit un détective, enfin un policier exactement, voilà. La ville est dégueulasse, c'est surpeuplé, on est dans de la dystopie, il fait tout le temps noir, mais ça se passe toujours de nuit, voilà. Il y a la femme fatale aussi, merci Boulesama. En fait, on est dans une pure esthétique noire. Moi, ma question, c'est en dehors de la narration, en dehors de la pure narration, en dehors du pur décor, est-ce qu'il y a des mécaniques que vous connaissez pour émuler le noir en cyberpunk? Sachant qu'on fera aussi une boîte à thé sur le noir un jour. Asgard Odin.
Ben en fait, on va rejoindre un peu la réflexion que j'avais sur les punks. Encore une fois, je renvoie hein, tout à l'heure à mon intervention pour dire exactement quel est mon style et quelle est ma connaissance du sujet, c'est-à-dire pas très élevée dans tous les cas. Je ne vois rarement, que ça soit pourtant dans d'excellents jeux comme The Sprawl, je recommande, ou moi, ma connaissance, c'est aussi Edge Runner, etc. Je vois rarement des choses pour jouer noir, mais... Après, ma connaissance du noir est encore moins élevée que celle du cyberpunk, mais de ce que je peux voir de l'extérieur, je dirais que le côté hard-boiled, le côté j'en prends plein la gueule et je lutte contre un système de manière désespérée est plus présent que le côté punk hein, à choisir. Pour autant, je trouve qu'il y a un certain nombre de marqueurs d'exagération. Pour moi, le noir est lié à l'exagération qu'on retrouve rarement tel quel dans le cyberpunk. Où il y a plus ce côté désespéré, nihiliste, que j'associe pas forcément au noir, en fait. Après, c'est peut-être une mauvaise interprétation de noir, mais je vois pas le noir dans un style cyberpunk. Je serais très curieux de lire Tech Noir, peut-être qu'il faut que je regarde à ce sujet-là, parce que ça m'ouvrira peut-être l'esprit sur les questions, donc merci du drop du nom, et puis merci d'ailleurs à tous ceux et à toutes celles qui ont drop des noms depuis tout à l'heure, c'est très cool. Ça permet de se renseigner et de se cultiver sur plein de jeux de rôle que je connaissais pas forcément où je vais jeter un œil. Merci.
Merci déjà. Voilà. J'ai une idée qui me met en tête, c'est je pense que le noir, il peut être relié un peu à ma première question. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'une mécanique qu'on peut mettre en place, par exemple, pour émuler le noir, c'est une létalité. Une létalité, c'est-à-dire les balles, ça fait mal, les balles, ça tue. Tu prends deux balles, t'es mort. Donc il y a un côté où tu te rends compte que bah oui, ça fait mal. Tu peux mettre en place peut-être des jauges, bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça du tout, mais des jauges d'attrition qui font que tu peux mettre en place des horloges aussi pour augmenter le stress, la pression, des compteurs. Peut-être aussi qu'il y a une autre piste à explorer du côté financier, du côté prix. Bon, ça, c'est plus l'univers, mais du côté prix où finalement tu te rends compte que tout coûte méga cher, que tu es obligé de magouiller. Tu peux aussi avoir, je crois qu'il y a un jeu de rôle qui émule ça, mais un système de dettes. C'est-à-dire que bon, bah, tu commences la partie, tu as des dettes. Je crois que c'est pas The Sprawl qui fait ça, c'est The Sprawl qui fait ça. Voilà, par exemple, tu peux sur un jet de dés, il me semble, avoir une augmentation qui entraîne des côtés négatifs. Voilà, par exemple, j'ai peut-être des bêtises, hein, c'est sous contrôle. Voilà, si quelqu'un connaît mieux The Sprawl. Mais tu peux avoir un système où en fait ton augmentation. Tu l'as pas pour rien, quoi. En fait, si tu l'as, c'est parce que tu dois quelque chose à quelqu'un. Bon, le trope de la femme fatale, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de le développer mécaniquement ou même tout court, hein. C'est quand même un trope qui, pour moi, me paraît méga sexiste. Je pense pas que ce soit, à moins qu'on renverse le prisme de la femme fatale et qu'on en fasse autre chose. On reparlera du noir à l'avenir. Donc. On nous parle d'Ascendance, a priori. Un jeu qui utilise un système de résistance pour émuler les emmerdes inhérents au genre noir. Vous avez mis le système de sprawl, effectivement. Soit l'étiquette a eu douloureux, soit on économise pour le payer. Dans ce cas-là, il y a des étiquettes négatives. Soit quelqu'un d'autre l'a payé. Dans ce cas-là, tu es redevable, tu es endetté. L'étiquette endettée. Soit tu as fait un coup de pute à quelqu'un pour l'obtenir, tu es traqué. Une autre étiquette. Voilà, donc c'est par le biais des étiquettes, effectivement, que l'augmentation va avoir un côté noir. Je passe la parole à Virgile.
Pour moi, ce qui va caractériser aussi le noir, c'est le côté tragique. Hein, souvent, les héros, entre guillemets, du noir finissent tragiquement. Et c'est souvent des protagonistes avec des failles, avec des soucis, avec des personnages un peu ambigus. Donc je pense que proposer aussi des moyens de développer ce type de personnage, peut-être dans la création de personnages, de donner justement ces failles-là, de donner des faiblesses, de donner des fragilités aux personnages, ça peut être aussi un moyen mécanique de d'aller vers ça. Et comme tu le disais tout à l'heure, le fait aussi de jouer sur la létalité, mais au sens large, c'est-à-dire pas seulement au niveau corporel, mais au niveau de l'esprit, de qu'est-ce qu'on perd aussi quand on s'engage comme ça, quand on lutte contre ces corporations, on y laisse aussi son âme, on y laisse des proches, on doit sacrifier beaucoup de choses. Donc c'est des thématiques, ce côté tragique là, qui peuvent être mis aussi en œuvre. Donc ça nécessite en effet de doter le personnage d'un réseau de gens auxquels il tient. Donc je pense qu'en développant ça, des failles et puis aussi une sorte de contexte social qui permet aussi de jouer sur cet aspect tragique. J'ai fini.
Merci Virgile. Poirot.
Moi, je sors un peu les infos de mon cul, mais pour moi, la différence principale entre le noir et le punk, c'est que le punk, c'est un mouvement qui est basé sur une vision de la communauté, du groupe, où tu veux justement, c'est l'anarchie, c'est la création, l'organisation d'un groupe une auto-organisation d'un groupe qui sait trop trouver des solutions. Là où le noir, c'est fortement basé sur le héros solitaire qui en chie. C'est-à-dire qu'en gros, ton héros typique de film noir, c'est un homme seul, souvent qui a aucun réseau autour de lui, qui est désabusé. Pour moi, le noir, c'est l'antithèse du punk, en fait. On ne peut pas faire deux genres plus idéologiquement différents que le punk et le noir. D'ailleurs, même dans l'esthétique, le noir, c'est quelque chose. Le héros de film noir a souvent une esthétique proche du héros. Il a une vision, une esthétique qui est souvent un reflet un peu raté de l'esthétique dominante. Là où le punk a une esthétique qui essaie de se découper complètement de la style dominante et de son éloigner. Alors pour moi, le héros du film noir, c'est souvent ça. C'est un peu le mec qui essaie de copier justement les dominants sans y arriver et qui en souffre. Là où le punk, c'est justement quelqu'un qui rejette le système dominant. Après, comme je dis, je sors un peu ça de mon cul parce que j'ai pas préparé plus que ça l'intervention. Mais moi, c'est un peu ce que me donnent ces esthétiques, quoi. Le noir, c'est quelqu'un qui voudrait être un bourgeois qui arrive pas. Et le punk, c'est quelqu'un qui veut surtout pas être un bourgeois. Donc, c'est pour ça que les deux esthétiques se coupent. Et le noir, pour moi, est beaucoup moins létal et pas si létal que ça parce que c'est quand même très rare que t'aies des, enfin, les gens meurent autour du héros, dans le noir. Mais malgré tout, le héros noir, il en prend plein la gueule. Mais c'est un peu comme Indiana Jones, quoi. Il est blessé, il est touché. Mais c'est très, en général, il s'en sort, quoi. Et, voire des fois, il a le droit d'en prendre plein la gueule sur toute une série de bouquins. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour le coup, ouais, c'est un peu l'idée. Mais il y a, voilà, il y a un peu cette esthétique un peu sombre. La létalité du noir, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment un genre qui est dans la létalité ou dans la performance de la létalité? C'est-à-dire, tu montres la souffrance, tu montres la douleur, mais pas forcément avoir un personnage qui va vraiment être dans cette forme de létalité. Donc, voilà, je pense que j'ai fini de raconter des conneries, donc si quelqu'un veut reprendre la parole.
Merci, Poirot. Asgard.
Oui, alors je vais faire
toute brève intervention, parce qu'en fait, je suis en train de regarder le sommaire et je vois pas trop où la caler à part ici, donc je la fais maintenant. Sur la question de l'argent et du cyberpunk, j'avais commencé à écouter une super petite campagne de Samuel Zitterman, à l'époque où il faisait encore des actual plays, sur un monde cyberpunk où, qui est inspiré d'un bouquin, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Luna, où on vit, enfin où les héros vivent sur la Lune, et du coup, au lieu de choper du cred comme classique, ils vivent littéralement pour respirer de l'air. Voilà, c'est leur droit à respirer qu'ils achètent. Et donc, du coup, je trouvais ça voilà, vraiment très cool. Alors, ça aurait pu être dans les augmentations, mais techniquement, ça me semblait plus proche de la question du noir dont on parlait tout à l'heure avec l'argent. C'est un truc dont on pourrait débattre. Voilà, et je m'arrête là.
Merci Asgard. Moi, je vais aussi faire un petit insert rapidement. Là, j'ai commencé enfin, après toutes ces années, une partie d'Eclipse Phase. Dans Eclipse Phase, il me semble, ou ce que j'ai vu en tout cas, t'as plus vraiment de monnaie. En fait, ta monnaie, c'est la réputation. En fait, t'as de la réputation, et en fait, ta réputation va te donner lieu à des ressources, à des contacts. Je crois que t'as quand même de la monnaie hein, dans Eclipse Phase, mais bon, voilà. Mais j'ai l'impression un peu que la nouvelle, je l'ai lu dans le bouquin de base, donc il me semble que c'est le cas. La nouvelle économie, c'est l'économie de la rep. C'est l'économie de la réputation, et ça change un peu le prisme par rapport à la monnaie. On va peut-être passer à l'identité. C'est plus une question, on va dire, en termes de lore, mais on peut aussi mettre quelques éléments mécaniques. Généralement, il y a une question sur l'identité, le transhumanisme, est-ce qu'on est encore humain ? On remarque aussi que c'est un peu une société qui est généralement à la fois post-raciale, mais à la fois très très raciste, ce qui est paradoxal. Par exemple, dans le cyberpunk, il y a très souvent une influence asiatique. La Chine, voire le Japon, c'est les grosses méga-corpos, voilà. Il y a par exemple Renraku dans Shadowrun. Il y a Arasaka dans Cyberpunk. On y voit, pour moi, il y a quelques problèmes à ça. Il y a généralement une espèce d'orientalisme, c'est-à-dire une espèce de vision caricaturale de ce que pourrait être l'Asie, Zaibatsu également, ouais, de ce que pourrait être l'Asie selon des regards américains. Pas forcément trop parler de ça non plus, mais bon, là, c'est un point. C'est un point voilà, tu perds en Uyen, effectivement, dans Shadowrun, etc. L'autre aspect, oui, c'est la question effectivement, de l'identité. Par exemple, on sait que dans Shadowrun, il y a la présence des méta-humains. Et les méta-humains, en fait, subissent énormément le racisme. Si on va retrouver justement un côté peut-être un peu punk, puisqu'en réalité, si tu joues un orc ou un troll, tout le monde va te cracher à la gueule. Et à un moment donné, tu vas devoir en fait faire en sorte de te faire respecter. Donc tout le monde te prend pour un débile, etc. D'ailleurs, on joue aussi un peu avec ces clichés, notamment dans Shadow of Anarchy, puisque en fait un troll dans Shadow of Anarchy n'est plus quelqu'un de stupide, qui est minoré en intelligence. Voilà. Je crois que c'est encore un peu le cas, mais bon, ça a été quand même vachement adouci par rapport aux anciennes éditions. Et l'autre aspect, c'est l'identité. Effectivement, je crois qu'il y a pas mal de mécaniques qui montrent un peu ça. Je sais que dans Shadowrun, il y a l'essence. Plus tu as de cyberware, plus tu perds de l'essence, voilà. Plus tu t'éloignes de l'humanité et plus tu t'éloignes du monde spirituel. Tu as une espèce de jauge magie technologie qui fait qu'en réalité, tu t'éloignes de ton humanité. Je crois que c'est aussi le cas dans Cyberpunk, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une mécanique comme ça. Et puis pareil, on voit que dans Eclipse, il y a toute une mécanique autour de la relation entre le morph, ton corps, qui n'est plus qu'un élément jetable, on va dire, voilà, et que tu peux avoir plein d'aspects, tu peux choisir ton corps, donc tu peux aussi avoir un côté, tu peux être un singe, un poulpe, ça va aussi parler de la transidentité, puisque dans Eclipse Phase, la question du genre et du sexe est plus ou moins, enfin je sais pas quel terme vous voyez, mais c'est un terme qui fait, en gros, tu peux parfaitement avoir un genre masculin, ton ego. Donc ton âme, tes pensées, tes souvenirs, ta personnalité, et être dans un corps féminin, par exemple. On voit une scène comme ça, d'ailleurs, dans le premier épisode d'Altered Carbon, très bonne série, d'ailleurs, où, en fait, on voit qu'il y a une enfant qui a été incarnée dans un corps de personne âgée. Donc, en fait, ses parents la retrouvent, mais c'est une vieille femme, physiquement. Voilà, alors qu'en fait, elle a l'âme d'un enfant. Donc, il y a la question de l'identité. Donc, pareil, en dehors de l'essence, du morph et de l'ego, est-ce qu'il y a effectivement des côtés peut-être mécaniques ou en termes de lore qui vous ont interpellé sur la question de l'identité et la transidentité, mais aussi l'identité ethnique dans des jeux de rôle cyberpunk. Virgile, je t'en prie.
Alors moi, le jeu qui me vient tout de suite à l'esprit là, c'est Headspace. Headspace, tu joues donc dans un univers cyberpunk des agents qui partagent une sorte de même conscience. Enfin, ils peuvent dans le Headspace, c'est justement une sorte de zone où ils peuvent partager leurs compétences. Et donc, ils ont des émotions et il y a des interactions avec tout ça. Donc, ça pose la question de l'identité de ces gens qui sont reliés, qui sont connectés de par ce biais-là pour faire des missions. Et comment ça évolue, quelle influence ça a sur eux, quoi. Voilà, j'ai fini.
Mais merci, Virgile. John ?
J'ajouterais à cette idée-là de Virgile, les espèces d'agendas personnels qui ont des semi-consciences et qui peuvent du coup communiquer avec nous et qui font clairement partie de notre vie, un peu comme si on avait toujours quelqu'un dans notre tête qui pouvait nous donner des infos, nous soutenir, nous aider, à certains moments nous envoyer notre dose d'antidépresseurs si on va pas bien, jouer un rôle d'animal de compagnie aussi en même temps. Peut-être même avoir une forme en réalité augmentée qui fait que tu peux le voir. Ça peut être les muses dans Eclipse Face, comme ça a été écrit à certains endroits. Ou d'autres, je pense qu'on doit avoir des équivalents dans Shadowrun, dans Cyberpunk aussi. Ça doit être possible de trouver quelque chose qui ressemble à ça. J'aime bien aussi le côté, est-ce qu'on a encore une identité connue, réelle ? Est-ce qu'on est dans les bases de données du monde connu et avec quelle forme d'identité? Il y a souvent l'identité supérieure qui est l'identité corporatiste, une identité d'État qui est plus pour les gens qui malheureusement ne travaillent pas pour les corpos et ceux qui sont sortis des bases de données et qui sont plus rien, qui sont des gens qui officiellement devraient vivre à la rue parce qu'ils ne peuvent plus avoir de logement, ils ne pourraient plus se connecter aux différents réseaux informatiques, électriques, tout ce que vous voulez, et qui nécessiterait du coup d'avoir plein de moyens de hacker une place dans la société. Et qu'est-ce que ça implique? Et donc là, le côté punk, il peut vraiment ressortir si on décide de partir là-dedans. Et à l'inverse, quand on joue des mercenaires qui passent leur temps à faire des actions illégales, là ben, est-ce qu'on a envie que notre identité soit connue? Qu'est-ce que ça veut dire dans un monde qui est technologiquement avancé, où du coup on peut récupérer ton ADN ou des traces de ton ADN partout, des scans de ton visage, si on se base déjà avec les connaissances actuelles, avec les bases de données et puis la puissance informatique qu'on pourrait imaginer en quelques années, en gros on ne peut plus rien faire d'illégal de toute façon. Asgard, à toi.
C'est vraiment, je pense, à mon goût, la partie qui m'intéresse le plus dans le cyberpunk de manière générale. C'est le rapport que ça porte à l'autre, en fait. Et c'est un rapport qui est questionné, à mon sens, à l'autre et à soi-même. C'est un rapport qui est questionné, à mon sens, dans tous les aspects du cyberpunk. C'est la question de... Alors, je sais que c'est le sujet juste après, mais voilà. C'est la question de l'augmentation. Est-ce que ça fait du transhumanisme? Est-ce que ça fait encore de nous un être humain? C'est la question de qui on est si on transfère sa conscience? Qui on est dans la matrice? Puisque c'est pas juste une interface comme aujourd'hui on est sur Discord, mais c'est complètement l'esprit qui va dans la matrice. Donc est-ce qu'il est encore lui-même dans autre chose que son propre corps? C'est la question de comment on vit quand on se fait réparer en permanence, voire qu'on change de corps le cas échéant. C'est la question de comment ça se traite quand on meurt aussi. C'est la question de on traite les autres comment. Moi, je rêve d'un monde cyberpunk où la question fondamentale du runner, c'est attendez les gars, ok, on a enlevé ce cadre de la corpo, mais en fait, il a une identité. En fait, lui aussi, c'est ce que disait tout à l'heure Virgile, ici même en Raybon. Il a une identité, il a une âme. On peut pas juste se contenter de genre le virer et le stopper et voilà quoi. Donc, je pense que c'est vraiment une question qui est centrale dans le genre cyberpunk et qui est là aussi, à mon avis, souvent mal mis en avant parce que je vais me faire une petite généralisation que je ne souhaite pas méprisante, mais globalement, moi, tout ce que j'ai vu des jeux cyberpunk, pour l'instant, c'est les grandes listes d'équipements et les gros flingues pour aller ensuite, et la trahison de Monsieur Johnson et de la corpo, soit au début, soit à la fin. J'ai pas tellement vu ces liens entre personnages, et quelque part, je le regrette un peu, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apporter dans cette dimension-là. Je vais citer une petite expérience personnelle qui est la mienne. Je l'ai fait jouer à une époque, ça s'est malheureusement fini et certains s'en souviennent. J'ai fait jouer malheureusement D3, donc la campagne de Cédric Ferrand, dans un monde clairement SF où il y avait une question liée au cyberpunk, même si du coup c'était plutôt en demi-teinte derrière, et où les personnages se sont retrouvés face à une conscience mise de côté, entre guillemets. trois ans avant l'autre, enfin, une sauvegarde de sa conscience qui datait d'il y a trois ans. Pour moi, il y avait un vrai enjeu sur cette question-là de l'identité, mais qui n'était pas spécialement effectivement lié au genre cyberpunk en l'espèce, mais je le regrette. Effectivement, je pense que dans un jeu cyberpunk, tout le monde a une fausse identité. Et le moment où elle est révélée, où chacun accepte de donner à l'autre son identité, je pense que ça peut être un moment important. Et je passe la parole à Mass.
À moi. D'ailleurs, je regrette parce que c'est moi qui jouais avec toi. Il y a Carole et Brice, qui sont là aussi et qui le jouaient. Et moi, ouais, je pense qu'on aurait tous bien voulu finir cette partie qui était très très intéressante d'ailleurs. Ouais, je voulais prendre la suite par rapport à ce que tu dis. Je trouve que ce que tu pointes, c'est vraiment très très intéressant. Et je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que les quelques fois, moi, j'ai pas joué souvent à du cyberpunk non plus, quoi. Mais les quelques fois où j'ai joué, c'est pas vraiment vers là où ça tend. Et je pense que ça peut avoir vraiment une importance, un intérêt pour les joueuses et surtout moi qui aime bien le jeu un peu dans l'immersion et un peu dans le bide, ça peut être très 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 fort, quoi. Et je trouve dommage que ça ne soit pas mis en plus en avant. Je pense à des livres, le dernier que j'ai lu dans le thème, c'était Libation de Chambers, donc c'est le deuxième bouquin de sa trilogie, je crois, où on va suivre la vie d'une entité IA qui a été transférée dans un corps et qui naît, entre guillemets, mais qui n'est pas humain. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Et je trouve que le cyberpunk pourrait vraiment jouer là-dessus. Je vais faire moi aussi un peu de l'autopub sur 2D6 plus cool, vu que j'en ai parlé encore aujourd'hui. On a fait une partie avec Volsung, Lisa Banana et Bellefeuille, je crois, où on jouait un For the Queen, où on jouait des IA. Et donc on jouait vraiment cette histoire de l'identité et de savoir ce qu'on était vraiment, quoi. Est-ce qu'on était des êtres pensants, humains et compagnie. Et c'était vraiment très très fort, très très intéressant et très très classe. Et je conseille, j'espère que vous aurez des expériences comme ça, vous aussi, ceux qui nous écoutez. Voilà, je laisse la main à Narcy.
Merci Mas, merci Asgard. Après, comme je le disais au départ, hein, on est vraiment la base du cyberpunk, c'est vraiment l'impact de la technologie sur l'humanité, le rapport entre l'humanité et la science, une science qui avance trop vite, une science qui change nos modes de vie. Pour repartir un peu sur la question de l'identité, il y a plein de thèmes connexes. Il y a les IA, effectivement. Est-ce qu'une IA a des droits? Est-ce qu'une IA peut avoir une conscience? Tout le monde connaît, enfin j'imagine que tout le monde connaît Ghost in the Shell, hein, qui aborde très très bien la question, puisqu'il y a des ghosts, voilà, enfin, on parlait tout à l'heure de fantômes dans la matrice, bon là c'est carrément poussé plus loin. Il y a aussi la notion effectivement qu'il y a des jeux où tu as une IA, qui peut être incarnée notamment par un autre joueur, c'est une gymnastique, puisque le joueur doit incarner son PJ plus l'IA de PJ d'à côté, mais ça peut être très cool, et ça permet aussi de décharger le MJ. Il y a aussi la notion des androïdes, explorée et notamment dans Blade Runner. Donc, c'est pareil, la même question pour les androïdes. Est-ce que les androïdes ont des droits? Un excellent jeu vidéo qui est assez court, hein, une douzaine d'heures là-dessus, sur cette thématique, c'est Detroit Become Human, qui est profondément cyberpunk pour moi, et qui aborde parfaitement cette question-là, quoi. On le voit aussi dans les tensions que ça suscite entre personnes d'identités différentes. Tension entre augmenté et non augmenté, tension entre androïdes et humains, tension entre IA et humains, voilà, la guerre des IA contre les humains, c'est un trope extrêmement classique du cyberpunk, hein. C'est même un trope classique de la science-fiction tout court, hein. Ouais, plein d'exemples, le jihad butérien dans Dune, Eclipse Phase, où littéralement, gros problème avec les IA, hein, avec ce qu'ils appellent les titans, Terminator également, Matrix, enfin voilà, il y a une tonne d'œuvres qui ne sont pas toujours cyberpunk, ou une connotation, une esthétique cyberpunk par ce côté-là. Voilà. Et moi aussi, je considère effectivement que c'est ce questionnement de l'identité et de qu'est-ce qui nous rend humains. C'est un des côtés les plus intéressants dans le cyberpunk. Je ne sais pas si c'est beaucoup abordé dans le jeu de rôle. Je pense que c'est généralement plutôt à la marge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, moi, à ma connaissance, il y a peu de mécaniques qui émulent ça, à part l'essence dans cyberpunk. Mais c'est plutôt quelque chose qui va être exploité peut-être dans l'écriture de scénarios, l'écriture de campagne. Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'à Shadowrun, ce n'est pas possible de jouer une IA, malheureusement, ou un androïde. Mais il y a d'autres jeux cyberpunk où tu peux jouer un androïde complètement et où là, tu vas peut-être explorer mécaniquement ce que ça fait et diégétiquement, c'est-à-dire en termes d'expérience de RP, tu vas explorer un peu ce que ça fait d'être un androïde. Voilà. Il y a une autre série aussi excellente qui montre très bien ça, c'est Almost Human, où on voit un policier un peu à l'ancienne, on est encore dans le noir, travailler avec un androïde, et au début ça se passe pas très très bien. Pareil le remplacement aussi des humains par les IA, aujourd'hui on est en plein dedans, hein. C'est un questionnement qui traverse la toile, qui traverse le milieu du jeu de rôle aussi. On commence à se questionner sur qu'est-ce qui va advenir de nous avec les IA, quoi. On nous cite aussi le cycle des robots, effectivement. Même, ouais. John nous dit, il y a aussi le côté à quel groupe j'appartiens, quelle est mon identité de groupe, corpo, gang, quartier, espèce. On va pas donc passer à la question suivante. Les augmentations. Les augmentations sont au centre du cyberpunk, hein. On le sait bien, on en parlait tout à l'heure. On parle d'implants, on parle de bioware quand c'est quelque chose de cultivé en manière biologique. On parle de nanoware même dans le post-cyberpunk avec des augmentations de nano. Il y a des termes, voilà, on ne termine pas les termes d'implants. De chrome, notamment là, quelqu'un de chromé. Plusieurs problèmes que je vois aux augmentations. Déjà, la gestion de l'équipement. On en parlait un peu par rapport à l'argent, par rapport aux étiquettes dans The Sprawl. C'est-à-dire, comment on fait pour ne pas se retrouver face à un catalogue d'augmentation. Je me rappelle que dans les premières éditions de Cyberpunk auxquelles moi j'ai joué, et dans Shadowrun également, il y a des pages entières, je pense qu'il va y avoir peut-être 500, 600 pages d'augmentation. Il y a des gens qui adorent ça, hein. Ils se régalent passer des heures à chercher la meilleure augmentation, etc. Il y en a d'autres, comme moi, pour qui c'est assez pénible. Il y a deux jeux qui partent sur des perspectives très différentes, c'est CBRPNK et The Sprawl, où ton nombre d'augmentations est limité, de base. CBRPNK, je crois que tu as 3 augmentations, il me semble. En tout cas, dans la partie que j'ai jouée, moi, c'était le cas. 4, je ne sais plus exactement. Voilà. Des augmentations que dans CBRPNK, tu crées à la volée. En cours de jeu, tu peux dire, je ne sais plus quelle est la sous-mécanique exactement, mais... en fait, tu as des moments donnés où tu peux rajouter tes augmentations au cours de la partie et pareil, leur donner un peu des étiquettes. Je crois que tu prends du stress, il me semble. On nous parle aussi de Tetsuo.
Les augmentations, ouais, moi j'avais envie de redire un peu ce que disait Asgard tout à l'heure et faire le lien. Il y a tout ce côté identitaire aussi qui est hyper important et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le développement mental des gens. C'est pas la même chose de se réparer, d'essayer de faire de la médecine pour remplacer un bout de chair détruite par de la machine, et puis un jour se dire, tiens, ce serait chouette que je me découpe le bras parce que ce truc en chrome est quand même beaucoup plus cool et je serais beaucoup plus puissant, je pourrais planquer des armes dedans et voilà. Ou m'enlever des yeux pour me mettre des autres yeux à la place. Alors que pour avoir des lunettes qui me donnent les mêmes capacités, ou voir des lentilles qui me donneraient les mêmes capacités. Et je trouve ça chouette que dans le cyberpunk, ils n'oublient pas qu'il y a une espèce de psychose, mais pour moi, elle ne devrait pas résulter de « je me suis mis de la mécanique et donc je deviens moins humain », mais c'est plutôt « je fais le choix de me mettre de la mécanique et donc déjà à la base je suis moins humain ». On a un peu renversé les choses. Donc ce petit côté-là. Moi j'aime bien les catalogues. Après il y a des moyens de, parce que ça donne des idées, parce que il y a des gens qui ont bossé pendant longtemps pour essayer de voir toutes les possibilités qu'on pourrait créer et toutes les possibilités qu'on pourrait offrir aux joueurs. Et je trouve que très souvent, si on n'a pas toutes ces ouvertures-là, on n'y penserait pas. C'est le cas déjà avec Cyberpunk ou Shadowrun, mais c'est encore pire avec Eclipse Phase, qui est vraiment très transhumaniste et dans lequel la technologie elle a fait un tellement gros bond par rapport à la plupart de nos connaissances actuelles. Quand on est un humain de base comme moi, qui ne s'intéresse pas à toutes les possibilités de ce point de vue-là, j'ai été épaté par toutes les possibilités offertes. Par le jeu. Et un petit dernier point, moi j'aime bien l'idée, en jouant avec Fate, moi je joue beaucoup à Fate, qu'on puisse tout à fait décider qu'une augmentation, ça va être soit un des aspects du personnage qu'on pourra utiliser à certains moments, mais qui peut être se retourner contre nous, ou une des prouesses, ou juste l'explication de je peux faire telle chose parce que j'ai tel équipement qui me donne la capacité d'agir. Et derrière moi, je donne la parole à Virgile.
Oui, bah, moi je vais revenir sur The Sprawl. Donc, dans The Sprawl, il y a un move qui s'appelle passer sur le billard. Et donc, il faut payer, il faut acheter ses augmentations, hein, comme dans d'autres jeux. Mais il y a aussi passer sur le billard. Et donc, ça permet de vérifier si tout se passe bien comme prévu. C'est-à-dire, est-ce que ça devient douloureux? Est-ce qu'il y a des est-ce que ça va se dégrader? Est-ce que c'est médiocre? Est-ce que c'est défaillant? Donc voilà, ça donne des billes aussi pour après, quand il y a des échecs ou des réussites partielles, pour que le meneur puisse activer des effets. Parce qu'en fait, au final, ce qui est intéressant dans cette histoire d'augmentation, c'est pas seulement la course à la puissance, c'est à quel prix. Qu'est-ce que le personnage y perd là-dedans? Jusqu'où il est prêt à aller, justement, bon, ça rejoint ce qu'on disait sur l'identité tout à l'heure, jusqu'où il est prêt à aller pour devenir plus qu'humain, pour être plus fort que les autres, pour résister aux corporations, qu'est-ce qui va, jusqu'où il est prêt à aller, c'est un peu du stop ou encore, quoi. Hein. Et donc, il y a beaucoup de jeux qui proposent des mécaniques, justement, sur la déshumanisation, sur justement, aussi, comment on se procure ces augmentations, où est-ce qu'on les trouve, est-ce qu'on les trouve au marché noir, est-ce qu'on les trouve auprès des corporations, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça dit, c'est jouer autour de tout ça qui me semble intéressant. Voilà, j'y finis.
Merci Virgile, je vais passer la parole à Mas.
Pour moi, l'intérêt d'une augmentation, c'est si elle a un coût dans le jeu, quoi. Si ça apporte quelque chose au personnage, mais pas qu'au personnage, à toute l'histoire qui va entourer. Alors moi, par exemple, les catalogues, c'est vraiment pas trop mon truc, franchement, des tas de catalogues, et malheureusement, je pense qu'il y a eu beaucoup de catalogues qui ont été faits parce qu'il fallait vendre des bouquins, et quand t'as vendu le livre de base, quand même le plus facile à vendre, donc pour Pathfinder par exemple, c'était les dons, et pour les jeux de cyberpunk, c'était plutôt des catalogues. Mais moi, je trouve que si derrière c'est juste rajouter des augmentations pour optimiser, pour la jouer bourrin et compagnie, je vois. Dans mon cas, moi, je verrais pas vraiment l'intérêt de jouer ça comme ça. Maintenant, après, chacun joue comme il aime. Hein. Mais si derrière il y a des coûts, si derrière il y a tout un questionnement sur, comme d'ailleurs dans beaucoup de séries, dans beaucoup de livres, où on voit que à chaque fois qu'il y a des augmentations, il y a un coût derrière, quoi. Pas qu'un coût financier, il y a un coût humain, il y a un coût. Il y a un coup que la vie va changer, et voilà, quoi. Donc, moi, je trouve que ça serait plutôt intéressant de ce point de vue-là. Après, augmentation pour l'augmentation, je verrais pas trop l'intérêt.
Je vais prendre la parole. Je cite quelques références et quelques citations à l'écrit. On a le film Tetsuo de Tsukamoto qui parle des augmentations du body horror où les chairs laissées se combinent, qui génère une psychose et qui crée des monstres biomécaniques humains. La douleur et la redécouverte du corps humain transformé. Cronenberg a aussi beaucoup travaillé sur le body horror, la modification du corps. Bon, c'est connu, hein, voilà. C'est un peu pour moi le maître du body horror, voilà, Cronenberg évidemment. On nous parle du JDR System Shutdown qui nous fait jouer des runners subissant une perte de leur augmentation au cours de leur dernier run dans une course contre la montre, pour buter le corpo qui les a trahis et a désactivé leur matos avant d'être éteint. On a la même thématique dans certains jeux cyberpunk, je ne vais pas spoiler, mais bon voilà, un jeu très très connu, où il y a un problème d'augmentation à un moment donné, une mise à jour qui cause des gros gros soucis. Voilà, vous découvrirez bien, j'espère que ceux qui savent sauront de quoi je parle. Voilà, on nous parle aussi du fait on fait des sacrifices pour être à niveau de l'adversité. Du coup, effectivement, le coût est intéressant. Chaque augmentation a un coût. Dans Cyberpunk, l'ancien jeu, et dans la série dérivée Edge Runner, on voit qu'il y a un phénomène qui s'appelle la cyberpsychose. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un, à force de mettre trop d'augmentation, en fait, perd le lien avec son corps et perd donc le lien avec. Même son esprit, en réalité. Hein. On dit qu'il faut que ça ait un impact narratif. Et il y a aussi autre chose qu'on peut aborder rapidement, parce que là, je déborde un peu sur l'horaire. La drogue, également. La drogue, très très souvent en cyberpunk, omniprésente, à la fois comme seule lumière dans cette ambiance très sombre, mais aussi comme seul moyen mécanique de se dépasser. Très présent dans les cyberpunk de Mike Pondsmith. Et il y a un lien qui est fait avec les augmentations et la drogue, effectivement. Moi, ça me fait aussi penser différemment, hein, très très différemment, je ne vais pas dire que c'est des augmentations ou quoi, au tatouage. A priori, il y a une espèce de pas d'addiction, hein, mais une espèce de on se fait tatouer, et plus on se fait tatouer, plus on en veut. Voilà, moi j'ai déjà parlé à des gens très tatoués, ils me disent ouais, mais en fait, une fois que tu as commencé, l'aiguille, tu deviens drogué à l'aiguille, quoi. Donc voilà, c'est, et d'ailleurs, on remarquera aussi que dans le cyberpunk, par le côté punk dont on parlait tout à l'heure, tu as souvent beaucoup de tatouages, beaucoup de piercings, un choix de son apparence. En fait, l'apparence devient quelque chose que tu peux customiser à l'infini avec des tatouages, avec des tatouages luisants, avec des coupes de cheveux pas possibles, avec des couleurs de cheveux pas possibles aussi. Enfin, voilà. On nous dit la drogue est le fuel des augmentations à un moment donné. Donc, ouais, on a un peu un triptyque, enfin, plus qu'un triptyque, hein, mais apparence, modification corporelle, drogue et augmentation qui vont changer ton corps. L'importance du style. Merci Virgile, effectivement. Je crois que dans Cyberpunk, il y a des points de style. Points de style, et en fait, bon, bah voilà, ton style est ce que fait va jouer sur ta réputation aussi. Et donc, on voit par exemple au Shadowrun des gens avec un look pas possible, des trucs complètement improbables, quoi. Parce que là, il y a une espèce de volonté aussi de se distinguer, et ça rejoint aussi la question de l'identité dont on parlait tout à l'heure. On nous parle à l'oral, effectivement, je le mettais en avant au début de l'introduction, que le mouvement punk a été esthétisé et que ça pourrait devenir le seul élément punk de l'univers, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit des punks visuellement, mais en fait, les mecs sont pas si punks que ça, quoi. Un exemple de ça, moi, j'y ai très peu joué, hein, donc je vais pas trop en parler. Mais c'est Cyberpunk 2017 qui a un peu relancé le genre, clairement. Hein. D'ailleurs, on a vu, d'ailleurs récemment, il y a eu un nouveau numéro de JDR Mag qui parle du cyberpunk, quoi. Voilà, qui a un hors-série, un dossier cyberpunk. J'imagine que Cyberpunk 2017 n'y est pas pour rien, comme la sortie de Cyberpunk Red, etc. Bon, bah voilà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être conclure là-dessus, c'est une problématique qui nous concerne de plus en plus. Qui nous intéresse de plus en plus parce qu'aujourd'hui, je disais quelque part qu'aujourd'hui, on est dans un monde cyberpunk. Il y a des méga-corpos, des multinationales, il commence à y avoir, il y a une implication du virtuel, il y a la réalité virtuelle, même si ça reste minoritaire. On commence à parler de Neuralink, donc de nous mettre une puce dans le cerveau. Il y a une exploration spatiale qui est dirigée, qui est menée par les méga-corpos, comme voilà, ce qu'on appelle les GAFAM. Hein, voilà. Il y a l'hypersurveillance technologique, donc l'utilisation de la technologie pour nous surveiller partout. Il y a tout un mouvement de hacking, voilà, avec des organisations, des associations qui essaient à leur échelle de lutter contre les multinationales et contre leur contrôle. Et puis, on est dans une société hyper numérique, en fait. Et qu'on voit aussi une vraie fracture numérique, c'est-à-dire entre les gens qui auront grandi et qui maîtriseront ces technologies-là, et les autres qui seront largués et qui auront des vrais problèmes pour s'intégrer socialement, parce qu'aujourd'hui, les outils numériques deviennent de plus en plus indispensables, ne serait-ce que pour l'administration. On voit aussi, pareil, des questionnements d'identité qui se multiplient. Hein, voilà, on a parlé tout à l'heure de la transidentité, mais... Voilà, on peut aussi parler des IA, on peut aussi parler de personnes qui préfèrent, a priori, interagir avec des petites copines virtuelles qu'avec des vrais gens. Il y a quelques années, on nous parlait du métaverse, bon, on l'attend toujours. Hein. Moi, je considère qu'effectivement, on est dans un monde cyberpunk, et pour moi, ce n'est pas anodin sur le fait que le cyberpunk intéresse de plus en plus de gens, même s'il a évolué, et même si aujourd'hui... je ne suis pas convaincu qu'on soit encore, comme le disaient certaines personnes, dans une version contestataire. On est plutôt dans une espèce de, soit de passivité face à la nouvelle technologie, soit d'incompréhension, soit de se dire, bah, en fait, on peut rien faire. On peut rien faire et ça va arriver quoi qu'on fasse. Quoi. Voilà. Même s'il y a des résistances, hein, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux IA, mais il y a une espèce de côté inéluctable de l'avancement de la technologie et avec certaines personnes qui s'en réjouissent. Et d'autres personnes qui soit se sentent larguées, soit ont une résistance à l'hypertechnologie. Mais on peut passer en temps libre pour ceux qui veulent rester. Voilà. Asgard Odin.
Je voulais juste replacer Alita, le film, parce que je n'ai vu que le film, mais qui apparemment est un manga incroyable aussi, pour replacer le fait que une des conséquence d'avoir des augmentations, et notamment des augmentations puissantes, ben ça peut être que les autres les veulent. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, faites gaffe aux augmentations que vous prenez, parce que vous n'êtes pas à l'abri de voir une bande de punk, plus punk que vous, essayer de vous arracher le bras, parce que Parce que votre augmentation vaut cher, en particulier si vous êtes dans un milieu runner pas très sympathique. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, Boulesama m'a coupé l'herbe sous le pied de quelques secondes, mais effectivement, je voulais remercier Narcy d'avoir organisé cette belle émission sur le cyberpunk. Voilà, c'était la première boîte à thé. J'étais très content d'y participer. Je remercie tous les gens avec qui j'ai participé. Et voilà, et donc merci à Narcy d'avoir pris sur lui et d'avoir courageusement décidé d'organiser ça. Voilà, c'était mon intervention, la fin de mon intervention.
Merci à tous les participants, à l'écrit ou à l'oral. Voilà, parce qu'il y a eu une bonne participation à l'écrit également. Pour reparler vite fait la réflexion sur la vol des augmentations, il y a effectivement aussi tout un côté. On est vraiment dans l'hypercapitalisme, hein, on en parlait tout à l'heure, l'ultra-capitalisme. Donc il y a tout un côté commerce d'organes qui est très florissant dans le cyberpunk. Hein, voilà. Je crois que dans le jeu vidéo cyberpunk et dans le jeu de rôle, il y a quelque chose qui s'appelle les broyeurs ou les broyeurs de cadavres, ou, des mecs qui, d'ailleurs, la toute première mission, c'est ça en fait. C'est quelqu'un, une riche, qui a été enlevée pour qu'on lui coupe les membres et pour qu'on récupère ces augmentations, parce qu'effectivement, une augmentation, ça reste du mécanique, en fait, et donc bah, ça peut être retiré de force et filé à quelqu'un d'autre, charcuteur, merci. Et pareil, il y a un côté où il y a des nouvelles métiers qui émergent, le charcudoc, qui est spécialisé pour monter les augmentations, qui a donc des connaissances en chirurgie et en mécanique. Il y a aussi un autre phénomène, c'est par exemple le développement de médecine spécialisée et également le fait que, voilà, qu'il y a, comme je disais, commerce d'organes, etc. Bah, ça crée pas mal de problèmes. Voilà, donc je le redis, merci à tous et à toutes. Voilà, si vous voulez rester pour discuter, il n'y a pas de souci.